Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Silence en joueur, Wankario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Mila Noire, on va parler de Splatoon 2 Octo Expansion et on finira avec le très surprenant Jurassic World Evolution de Frontier. Et puis le reste du programme, vous connaissez, je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, tous les mêmes depuis quelques semaines déjà, Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin des Croissants qui nous accueille, merci les Croissants. Bonjour Corentin.
Bonjour Erwan.
On commence avec toi, Patrick.
Oui, avec ce petit jeu, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, ça, on en parle un petit peu depuis un petit moment. Ah oui, Fortnite.
Ah
c'est
oui,
ça,
oui.
Fortnite.
Ah,
c'est limite du rétro gaming.
Mais oui. Alors, je ne sais plus si on en avait parlé dans notre émission un peu spéciale E3 de son arrivée sur Switch. Ça avait été une des grandes annonces de Nintendo. Je crois pas qu'on en ait parlé ici. Donc, il a été annoncé et puis sorti dans la foulée pendant les annonces de Nintendo dans le contexte de l'E3, de la conférence, enfin, pas de la conférence, mais de la présentation en ligne de Nintendo. Donc la version Switch est bien sortie. Moi, j'ai pu l'essayer. Elle m'a l'air très propre. Ce que j'ai pu voir, ça a l'air de bien fonctionner.
Tu y jouais où avant, juste
Alors, moi, j'y ai joué sur PC.
D'accord.
Et je crois que je l'avais lancé sur Xbox.
D'accord.
Et heureusement que j'ai lancé sur Xbox. Je vais y venir.
On va y venir.
Donc oui, la version Switch propre. Et puis, bah, c'est quand même un plaisir de pouvoir lancer un jeu comme ça de partout. Bon, c'est quand même bien sympa. Alors, le souci qu'ont eu certains joueurs est quand même pas mal parce que ça concerne une bonne partie de la population sur console, ce sont les joueurs qui avaient validé leur compte sur PlayStation, en fait, qui avaient associé leur compte Epic Games à leur PlayStation, leur compte PSN, puisque visiblement, donc, les joueurs qui ont voulu lancer leur version Switch fraîchement téléchargé et y relier leur compte ont eu un refus visiblement en provenance des serveurs de Sony, en fait, d'après ce qu'on a pu comprendre. Une fois que le jeu était lancé et donc associé à un compte PlayStation, on ne pouvait pas l'associer à une autre console, ce qui pose quand même problème, donc pour le lancer sur une version Switch, ce qui obligerait a priori les joueurs à recréer un nouveau compte, à façonner un autre compte spécialement pour la version Switch
et donc perdre la progression.
Ah ben exactement, c'est quand même le but du jeu, c'est d'avoir sa progression, ses amis, etc. Donc ça pose un problème. Le cas de figure ne s'est pas posé avec les versions PC, évidemment. Moi, c'est ce que j'avais fait avant. Les versions Xbox One non plus, a priori.
Alors, les problèmes existaient déjà entre version Xbox et version PS4.
Et en fait,
sauf que là, personne n'allait en fait jouer et sur Xbox
exactement.
Et sur PS4. Mais là, Switch, il y a un intérêt.
C'est complémentaire, voilà. On le sait, l'AVK voilà. Des complémentaires nous permet de jouer en portable autrement que dans le salon.
Et donc tout le monde s'en est rendu compte
et là,
maintenant. En fait.
Voilà, la plupart, moi, j'ai pas eu le cas, mais a priori, beaucoup de joueurs ont grogné là-dessus. Sony, pour l'instant, n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a eu de la grogne. C'est pas normal qu'on puisse pas reprendre notre compte.
Ah si, ils ont réagi. Ils ont dit
on bouge pas, quoi. Pour l'instant.
Ils ont littéralement dit mais nous, de toute façon, on a 80 millions de joueurs, on a 80 millions de PS4, donc on s'en bat les couilles.
Ils ont le volume, mais c'est vraiment
c'est
pas pratique,
tellement
quoi.
Scandaleux.
C'est surtout un débat qui me paraît rétro. Enfin, aujourd'hui, on est sur des plateformes ouvertes et le but, c'est aussi de pouvoir avoir plusieurs machines, jongler comme ça d'un compte. Et puis la force aussi d'Epic, c'est d'avoir ce compte qu'on peut comme ça qui est trans console, trans machine.
On est surtout
l'intérêt.
On est dans un monde où Nintendo est plus en avance sur ces questions-là. C'est Sony.
C'est surprenant.
Sony.
Alors espérons que Sony bouge. C'est leur intérêt aussi de se dire on se rapproche. Et puis on parle d'un jeu colossal.
C'est quand même parce qu'on parle de pognon. Clair, c'est que les petits vêtements et les petits accessoires pour notre avatar achetés sur la boutique Epic quand on joue à la PlayStation, il y a une commission que Sony empoche, évidemment. Enfin, évidemment, en tout cas, c'est comme ça que ça marche.
Ouais, 30%,
et donc,
je sais pas comment ça fonctionne exactement.
Et en fait, ils veulent garder ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas se retrouver
avec
des achats qui ont eu lieu sur Switch ou Xbox
qui arrivent chez eux.
Qui arrivent,
sur leur machine, parce sur que leur finalement machine. Le jeu il est pas à eux, enfin,
ce
il
qui est complètement hallucinant puisque c'est un jeu qu'ils n'ont pas développé, qui est vraiment éditeur tiers. Enfin, c'est comme si un joueur de Hearthstone par exemple, prenons le cas Hearthstone, qui joue sur son iPhone et qui change de téléphone, ne peut pas récupérer son compte iPhone sur un Android par exemple, ce qui est complètement étrange, lunaire. Enfin, c'est effectivement ce que tu dis, ça semble complètement anachronique.
Bah oui, donc espérons que Sony peut-être bouge là-dessus ou enfin.
Donc si vous avez le choix à jouer sur Xbox One S, je crois en plus que c'est la meilleure version à l'heure actuelle qui tourne à 60 FPS.
Ah ouais, ça a été identifié par rapport.
Il me semble que c'est la meilleure.
La machine.
Hormis les PC puissants, évidemment, qui à mon avis doivent faire tourner le jeu très bien, mais je parle en termes de console, c'est la meilleure version a priori. Et il y a John Smedley qui est l'ancien patron du studio Daybreak Games Company, donc qui est un studio de Sony, et qui expliquait ce que tu disais, Erwan, c'est dans leur politique, ils veulent pas que l'argent soit dépensé sur d'autres consoles. Donc même lui, il déplore cette politique.
C'est un ancien Sony, lui. C'est pour ça qu'il peut parler de ça.
Là où c'est très intéressant, là où je trouve ça très intéressant, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer les bad buzz. On se souvient quand même de l'énorme truc que s'était pris Microsoft à l'annonce de la Xbox One sur le fait d'être connecté tout le temps, de ne pas pouvoir revendre ses jeux d'occasion, etc. Alors que c'est une pratique totalement minoritaire. Il y a très peu de gens il y a des gens qui sont concernés par le marché de l'occasion, mais pas l'énorme majorité des joueurs.
Non, mais ça avait braqué tout le monde. C'était tôt, c'était il y a 5 ans.
Oui, mais c'est le fait d'enlever finalement des droits qui semblent naturels aux joueurs, d'enlever pour des raisons commerciales, pour des raisons business, etc. Les joueurs s'en souviennent. Les joueurs s'en souviennent. Et de mémoire, en tout cas, c'est le premier élément où Sony déconne vraiment. Et finalement, à une période, on va se rapprocher de la période de changement de console, etc. Là, ça commence à concerner beaucoup de joueurs. Ça va être quelque chose dans l'inconscient collectif de millions de joueurs. Ils m'ont quand même bien niqué sur Fortnite.
Je pense qu'ils vont bouger, à mon avis.
Que ça va leur revenir dans la gueule un jour ou l'autre.
Moi, c'est ce genre de comportement complètement illogique, parce que c'est illogique. Enfin, tu laisses le truc se faire. De toute façon, ils vont empocher 30% des dépenses Fortnite sur PlayStation. Enfin, même si y a des achats qui ont été faits sur Switch, etc., c'est déjà des sommes astronomiques. Donc, il n'y a pas à bloquer les gens. Ça, c'est prendre un risque sur l'avenir, en fait, pour moi.
Complètement.
Corentin, on reste dans le Battle Royale.
Ouais, parce que l'autre Battle Royale, celui qui s'est un peu fait éclipser par Fortnite, c'est PUBG, mais voilà, il montre les muscles quand même en annonçant sa troisième carte qui arrive officiellement sur PC, donc hors serveur test où on pouvait déjà jouer un petit peu. Sandhawk. C'est le nom officiel maintenant, Savage, c'était le nom de code en fait. Et donc il arrive donc le 22 juin, donc à mon avis, si on sort le podcast à l'heure, c'est aujourd'hui si vous l'écoutez dès aujourd'hui. Sinon, il est déjà sorti sur PC si vous écoutez le podcast plus tard.
Vendredi,
absolument. Donc, je rappelle, c'est une carte qui est 4 fois plus petite que les deux autres, qui est faite de jungle, de caverne. Le temps est changeant, donc c'est intéressant. Les shrinks sont beaucoup plus rapides, donc on s'admande de vraiment bouger beaucoup plus vite, ce qui donne évidemment des combats féroces, puisqu'il y a quand même 100 personnes sur la map, donc ça se fight extrêmement rapidement. Et à l'occasion donc, de l'annonce de cette troisième map, ils ont annoncé des chiffres de vente, et notamment, on rappelle, Fortnite est un free-to-play, là où PUBG est un jeu vendu payant plein pot.
Trentaine d'euros en moyenne.
30 euros. Et c'est 50 millions de jeux vendus.
En combien de temps?
Un an. C'est mars. Le premier lancement bêta, c'est mars 2017. C'est
tout dépend si on prend l'early access ou si on prend le lancement officiel, mais après, le jeu est déjà très joué en early access.
C'est quand même énorme. À 30 euros pièce.
50 millions de jeux, c'est plus que n'importe quel Mario Kart, Pokémon. C'est
on n'est pas du tout dans les mêmes.
On est largement dans, je crois, le top 5 des jeux les plus vendus, et encore dans le top 5, il y a des jeux qui ont triché comme Wii Sports.
Ne l'enterrons pas trop vite.
Donc PUBG, tout va bien pour eux, il n'y a pas de problème. Et si on rajoute la version mobile, donc qui est gratuite et qui est un gros carton en Chine, ça fait quand même 400 millions de joueurs au total et 87 millions de joueurs qui y jouent tous les jours.
Oui, géographiquement, si on peut s'en regrouper tous ces gens,
ça fait du monde, ça fait la population de certains pays, c'est clair.
C'est fou quand même, comment un genre qui préexistait un petit peu, mais qui était
émergent,
qui était un peu expérimental,
on va dire,
complètement explosé en un an, quoi.
C'est un cas de figure quand même particulier. Je sais pas si on a eu des précédents dans l'histoire du jeu vidéo de genre comme ça qui rebalaye complètement, qui prennent de.
Il y a eu les différentes offensives historiques du FPS il y a eu une grosse percée au moment de Modern Warfare. Mais ça a rien à voir.
Je pense quand même que le MOBA est un peu similaire.
Oui, c'est vrai. Il y a le MOBA.
Est-ce que ça avait été aussi fulgurant? Je sais pas. Après, il y a les modes de consommation. Il y a aussi le phénomène d'entraînement. Enfin, ce sont des jeux aussi entraînants par définition, qui drainent tout un tas de communautés.
En fait, je pense que le Battle Royale a construit son succès fulgurant sur les acquis que le MOBA et d'autres genres de jeux ont construit. En l'occurrence, une scène e-sport qui s'est construite au fur et à mesure. La pratique de Twitch qui s'est de plus en plus répandue grâce à ce type de jeu. Et donc, je pense qu'en fait, il a juste capitalisé sur ce qui a déjà été construit. Et je pense que des succès comme ça, on en verra à l'avenir sur d'autres genres qui vont émerger d'un seul coup. Et ça sera intéressant à voir en tout cas. Et je voulais aussi signaler la sortie, l'annonce d'un jeu Kill la Kill. Donc c'est Arc System Works, qui édite et Trigger, donc le studio Trigger qui s'associe à ça. Donc Arc System Works, je rappelle, c'est tout ce qui est Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear, qu'est-ce qu'on a, Persona 4 Arena et tout ça. Mais c'est pas eux qui sont en développement, ils font qu'éditer, et c'est là où est la mauvaise nouvelle. On s'attendait à un vrai jeu Arc 6, ça sera pas le cas, ça sera un jeu A+Games. Et A+Games, c'est un peu moins brillant. C'est donc ils ont fait un jeu Little Witch Academia qui a été reçu de manière un peu c'était pas ouf, mais c'était bien. En tout cas, c'était joli. On aurait préféré que ce soit Arc System Works directement qui s'en occupe. On aura a priori un jeu de combat, et de toute façon, Kill la Kill, c'est un roster de personnages tellement immense, tellement divers, que ça, je vois mal comment on peut rater un Kill la Kill en jeu de combat.
Il faut que ça reste intéressant à jouer, quoi.
Et ce qui est bien, enfin, je me dis quand même qu'avec Arc System Works qui édite, ils vont quand même surveiller ce qui se passe, ils vont quand même garder un petit peu A+Games à l'œil pour pas qu'ils fassent n'importe quoi avec la licence, surtout que Kill la Kill, c'est quand même une licence assez puissante. Donc voilà, ça a l'air bien. En tout cas, les premières images qu'on a pu voir montrent un jeu particulièrement joli, et comme d'habitude, de toute façon, s'ils utilisent le même moteur que dans les Dragon Ball Z Fighters et tout, on aura une qualité 3D 2D hallucinante, c'est-à-dire que vous avez un moteur 3D qui est en fait, enfin vous avez l'impression de voir de la 2D alors que c'est de la 3D, c'est hallucinant. Enfin,
j'espère juste qu'il sera drôle.
Oui, bah de toute façon, c'est le but de Kill la Kill. J'espère qu'il sera drôle. J'espère qu'il sera jouable aussi. C'est surtout ça qui est important. Mais bon.
Et donc, avant d'arriver au programme de jeu de la semaine, il faut évidemment parler de la grande nouvelle, donc de cette semaine qui s'est sortie lundi soir. Une décision qu'on attendait déjà depuis quelques mois, puisque cette décision était annoncée, je crois, depuis 2017, et était formalisée en janvier 2018. Et donc, on attendait la rédaction finale. C'est la classification internationale des maladies, la 11e révision de cette classification, la 10e datant de 1990, de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est le grand répertoire international des maladies qui annonce donc intégrer dans le chapitre concernant les addictions comportementales, chapitre qui ne contenait qu'une seule entrée auparavant, qui était le gambling, donc les jeux d'argent. Ils ont inséré le gaming disorder, le trouble du jeu vidéo. Alors, avant que je laisse la parole au soupir de Patrick, on va définir quand même comment l'OMS le distingue. Donc, le trouble du jeu vidéo est caractérisé par un comportement persistant, caractérisé par la perte de contrôle sur le jeu, la priorité croissante accordée au jeu par rapport aux autres centres d'intérêt et aux autres activités, la poursuite ou l'escalade de la pratique malgré des conséquences négatives, une situation qui doit durer plus de 12 mois consécutifs des répercussions sur la vie sociale, professionnelle, scolaire ou familiale. Le directeur du département de la santé mentale à l'OMS, oui, parce que ça rentre évidemment dans la santé mentale, a décrit à l'AFP, la personne joue tellement que les autres intérêts ou activités sont délaissés, y compris le sommeil et les repas. Donc, juste avant de te laisser la parole, c'est un débat donc ces dernières années qui a sur l'addiction aux jeux vidéo et la reconnaissance de cette addiction en tant que maladie officielle. Elle a aussi un peu fait rage du côté de l'association des psychiatres américains. américain, donc qui fait un autre recensement des maladies mentales de son côté. Eux, ils avaient mis un texte en étude, hein, c'était pas un texte officiel, où ils définissaient, parce que alors là, ce qui est important dans cette caractérisation de l'OMS, c'est qu'il faut que les trois critères soient remplis, et le critère de durée des 12 mois et les répercussions négatives. Le document s'appelait le DSM-5, hein, côté Association des psychiatres américains. En fait, il y avait 9 critères et il suffisait d'en remplir 5 pour être considéré comme étant addict. Et notamment, il y avait eu des études épidémiologiques et des études et contre-études qui avaient été faites, disant que, par exemple, si on prenait la population des pro-gamers ou des joueurs, des joueurs un peu intensifs, passionnés, mais totalement équilibrés.
Passionnés, c'est peut-être le mot à retenir.
Non, mais on arrivait à une prévalence de 20% de malades. Donc, en fait, évidemment,
ça n'a aucun sens.
Alors que la définition de l'OMS, selon les études qui viennent des experts de l'OMS, ça concerne entre 1 et 1,5% de joueurs.
D'autant qu'avec la définition de l'OMS, je veux dire, les pro-gamers se nourrissent et ont une vie sociale. Donc, a priori,
tout à fait. Il n'y a aucun.
A priori, ils dorment.
Je laisse la parole.
Beaucoup de Red Bull.
Je laisse quand même la parole au soupir de Patrick.
Non, mais c'est en quelle année sommes-nous ? Enfin, j'ai envie de poser la question. J'ai l'impression d'entendre des vieilles batailles il y a 15 ans. Non, mais comme tu l'as bien dit, en fait, c'est encore sujet à discussion tout ça. Il y a des experts médicaux qui voilà, dans les deux sens, je pense, confrontent leur point de vue là-dessus. C'est loin d'être une réalité absolue. Moi, ce qui me fait peur, évidemment, c'est comment tout ça va être rattrapé, comment le jeu vidéo va vite reprendre cette image d'épouvantail. On va vite lui donner cette étiquette. Et c'est pas bon, une étiquette de maladie. Enfin, je trouve ça... On est en 2018, le jeu vidéo il véhicule des valeurs, on parle de sport, on parle justement d'échange, on parle de jeux en ligne, on parle de enfin voilà, il a plein de valeurs positives le jeu vidéo, on parle de création, aujourd'hui c'est une forme artistique.
On parle aussi de lootbox.
On en parle et elles reculent et elles sont bien identifiées et aussi on travaille à les identifier aussi ces choses-là.
Non mais évidemment, après faut quand même dire ce qui est, si l'OMS a sorti cette mise à jour de sa classification, c'est parce qu'il visait un marché un peu particulier qui est plutôt le marché asiatique et en Chine où il y a des mecs qui peuvent des mecs qui restent des jours entiers à jouer à des jeux, voilà, des MOBA ou là. Bon, moi je peux entendre ça, mais je sais pas, par exemple, l'addiction aux réseaux sociaux, aux écrans, pouvait pas passer avant. Il y a quand même un milliard sur lesquels on passe beaucoup plus de temps chaque jour, quoi.
Moi, dans le cadre de Libération, on a sorti un événement sur le truc et j'ai interviewé Joël Bilieu, hein, donc qui est un expert de l'OMS qui a travaillé à cette classification. Et donc, effectivement, d'après ce que tu dis, le travail de l'OMS a commencé en 2014 et concernait l'ensemble des nouvelles pratiques numériques. Reste que c'est suite à l'étude des données disponibles, des chiffres, des études qui avaient eu lieu, etc. Ils ont conclu, en tout cas, à ce que les résultats étaient solides pour les jeux vidéo. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire...
C'est les seuls où ils ont pu confirmer. Quoi.
Exactement. Ça ne veut pas dire que, évidemment, les réseaux sociaux l'addiction, entre guillemets, aux smartphones...
paraissent beaucoup plus, pourtant...
Alors, le problème, et avec le jeu vidéo, et à ça, c'est que... Et c'est tout le souci, c'est que il me paraît n'est pas une constatation scientifique.
On vit tous au quotidien, notre portable, on l'a tous avec nous, on lâche pas si on l'a pas.
Mais après c'est les répercussions négatives. Est-ce que sortir ton portable 850 fois par jour, est-ce que ça nuit à ta vie professionnelle, ta vie sociale?
Pas forcément.
Donc après que ce soit un truc de teubé de sortir son téléphone 12 millions de fois par jour, peut-être ça n'en fait pas une maladie pour autant.
Je suis d'accord avec toi, Arwan, mais alors pourquoi sortir maintenant cette mise à jour sur le jeu vidéo alors que la communauté scientifique leur exhortait d'attendre, de dire attendez. Alors.
La communauté scientifique. Alors, le problème, c'est qu'il y a des communautés scientifiques, que les experts de l'OMS sont aussi des scientifiques.
Oui,
je veux dire que l'OMS a réuni quand même une troupe d'experts internationaux qui ont travaillé sur les études. Les conclusions de ces experts internationaux ont été contestées par d'autres scientifiques.
Il y a des vraies
une confrontation. Alors, qu'est-ce qui se dit du côté des autres? Notamment, il y a un document qui est sorti qui regroupait un peu toutes les critiques contre cette nouvelle. Alors, juste pour répondre à ta première question, pourquoi maintenant? C'est parce que maintenant, après 21 ans, ou non, 18 ans, non, 28 ans, pardon, l'OMS met sa nouvelle classification. Donc c'est la date de la nouvelle classification internationale.
Je pose d'autant plus la question. Pourquoi maintenant?
Et puis le jeu vidéo, c'est vague. Hein. Ça représente tellement de genres et de modes d'utilisation différents. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est très large.
Les deux principales critiques qui ont été faites à cette nouvelle classification, c'est la première, c'est que pour certains scientifiques, et pas ceux de l'OMS en tout cas, il est quasiment impossible de déterminer si l'addiction constatée aux jeux vidéo, c'est-à-dire les conséquences négatives sur la vie, etc., est liée directement à la pratique excessive du jeu ou à une pathologie préexistante de type dépression, anxiété, etc.
C'est pas toujours une pathologie, ça peut être aussi un contexte particulier chez une personne qui a un moment envie de plus se mettre dans le jeu vidéo.
Non, parce que l'OMS dit quand même 12 mois, donc voilà, je pense qu'ils sont assez prudents sur cette question.
En tout cas, pour d'autres chercheurs, c'est compliqué de définir. Et la deuxième critique, qui est plus une critique peut-être formelle plutôt qu'une critique de fond, c'est la crainte de ce qu'ils appellent une panique morale. Grosso modo, on connaît tous, on a parlé par exemple de Fortnite en début d'émission. Combien de parents aujourd'hui sont en panique parce que leur ado entre 11 et 14 ans passe à une passion absolument dévorante pour ce jeu Fortnite et que eux, ne comprennent pas et deux, ont du mal à canaliser parce que une interdiction de jeu ou une coupure du Wi-Fi va déclencher des colères monumentales, etc. Mmh. Et donc, les parents, voyant l'arrivée du jeu vidéo dans les maladies officielles, vont avoir une tendance à pathologiser
l'étiquette peut faire très mal, je pense.
À pathologiser le comportement de leur enfant. Donc,
ce qui n'est pas lieu d'être systématiquement. Il faut bien faire attention.
Là où c'est intéressant et là où c'est un vrai débat, c'est que du côté de l'OMS, j'ai interviewé Joël Bilieu, qui est un chercheur à l'université du Luxembourg qui a travaillé en tant qu'expert. Ils disent que, mais ils inversent le truc. C'est que la panique morale, elle est déjà là. C'est que les parents, ils sont déjà complètement dépassés, en fait, par le comportement de leurs gamins. Ils sont déjà dans une panique morale. Et que définir précisément ce qui, selon l'OMS, relève de la pathologie, ça évite de considérer que le comportement d'un gamin qui pique une grosse colère...
Après, ça veut dire quoi, pathologie? Ça veut dire traitement? Ça veut dire lancer...
Ça veut dire que pour rentrer dans la classification de l'OMS, un gamin qui joue 5 heures par jour à Fortnite et qui est très en colère quand on coupe le wifi n'est pas malade. Ça rentre pas dans ces règles-là.
On voit de plus en plus aujourd'hui les communautés, alors dans divers domaines, je pense à la cybersécurité, je pense à plein de domaines où les gens pensent au marketing et à la communication. Quand on, par exemple, il y a une grosse faille de sécurité qui est découverte, on va faire un logo, on va faire un site et tout ça pour utiliser la communication et le marketing. Mmh. Certains scientifiques maintenant utilisent aussi ces méthodes pour faire des expériences un peu crétines pour que les médias puissent en parler, pour aller dans le sens de leur message. En faisant ça, l'OMS, ils vont exactement dans le sens inverse de ce qu'ils ont envie de faire. Si tu me dis que l'OMS n'a pas envie de créer une panique morale ou en tout cas n'a pas envie ou se dit qu'il y a déjà une panique morale et que faire ça de toute façon ça ne rajoutera pas de problème, et ben c'est l'inverse qui va se passer puisqu'on va étiqueter jeux vidéo égale maladie mentale et c'est tout ce qui va se passer. D'un point de vue de la communication, ça va être un désastre.
Ce qui est terrifiant, c'est que moi je me dis, enfin voilà, moi j'ai vécu les débuts du jeu vidéo quasiment et je jouais beaucoup à une époque. J'ai joué énormément et mes parents ont compris, ils m'ont laissé faire, ils me faisaient confiance aussi, ils savaient que voilà, je travaillais bien à côté, je me débrouillais quoi. Et je me dis aujourd'hui, il y aurait une étiquette comme ça qui arriverait dessus, ça les inquiéterait peut-être qu'ils me laisseraient moins jouer que ce que j'ai pu faire à l'époque. C'est ça qui m'inquiète, c'est le côté. Voilà, l'étiquetage peut vraiment avoir un impact sur la façon dont le jeu vidéo est vu en société. Et c'est...
Moi, je pense que c'est une question. Alors, c'est une question compliquée. Hein, je vous le cache pas. Je pense qu'il faut faire très attention aux biais, à tous les biais, notamment aux nôtres. Hein, la communauté des joueurs, des journalistes jeux vidéo, il y a un biais monstrueux de défense des jeux vidéo.
Parlons des biais. Tiens, ils ont quel âge ces gens de l'OMS? parce que moi, je serais curieux de savoir. Parce qu'aujourd'hui, les parents, à mon avis, ils doivent jouer à Fortnite aussi. Là, il y a quand même toute une génération de joueurs qui aujourd'hui sont parents et doivent aussi regarder d'un œil leurs parents. Deuxième chose, le fait de dire comme ça, voilà, une institution grande dit ceci est une maladie mentale, ça continue de déresponsabiliser les parents qui se disent ce n'est pas à moi de gérer le jeu vidéo de mon gamin et c'est à l'État ou c'est à une institution plus haute que moi. Au bout d'un moment, si ton gamin il joue 10 heures à Fortnite par jour, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de contrôle parental sur ta console ou sur ton ordinateur. Ou c'est peut-être parce que le gamin il a une console dans sa chambre ou son ordinateur dans sa chambre. Moi ça m'énerve ça, on déresponsabilise les parents.
Tu as exactement, c'est une remarque dans ce sens qui est écrit noir sur blanc dans le rapport 2017 de l'UNICEF sur les usages des enfants et du numérique, où ils expliquent que utiliser un langage clinique pour parler comportement des enfants face à des pratiques numériques, eh ben ça déresponsabilise et ça ne les incite pas à à réfléchir eux-mêmes sur leur utilisation
chaque
des
cas
écrans,
est particulier
etc.
quasiment. Enfin, c'est presque du cas par cas, selon l'individu, selon les individus, les parents,
évidemment.
Les enfants,
mais,
le, enfin, voilà, le mais travail à l'école, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Enfin,
pour moi, ce qui est important, alors moi je pense que c'est très important de bien comprendre que il y a effectivement un débat scientifique qui a lieu, tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision, mais c'est pas pour autant que l'OMS a pris des teubés pour décider
non,
ça
non, bien sûr.
Notamment parce que je vous parlais tout à l'heure de la DSM-5, des associations des psychiatres américains. Joël Bilieu, donc qui est l'expert de l'OMS, donc qui a travaillé sur ce texte que j'ai interrogé, a été aussi un de ceux qui a prouvé que le texte de la DSM-5 avait une prévalence de 20 à 30% chez les joueurs et a combattu ce texte. Ça veut dire que c'est des gens qui connaissent le jeu vidéo, travaillent sur ces trucs-là
encore
au quotidien, et ce sont des cliniciens. Notamment, c'est que les cliniciens sont beaucoup moins présents chez ceux qui contestent. C'est-à-dire que c'est pas une... C'est ceux qui sont à l'OMS, c'est aussi ceux qui sont dans les centres d'addictologie, qui reçoivent des parents qui sont déjà paniqués, qui aussi, c'est eux qui disent, si on définit bien, ça va peut-être permettre de désengorger les centres dédiés à l'addictologie en définissant bien ce que c'est. C'est-à-dire que si votre problème, effectivement, c'est que votre gamin joue à Fortnite 5 heures par jour, le problème, c'est peut-être vous. C'est pas l'addictologie.
C'est une clinique remplie de gens qui vont leur dire...
Elles sont déjà remplies. Toutes les consultations en addictologie dédiées au comportement numérique ont déjà des listes d'attente, ont déjà des problèmes de saturation. Donc, on est déjà dans une situation... Après, voilà, c'est ce qui me gêne aussi un peu sur la réaction du lobby de l'industrie des jeux vidéo et tout ça, où ils sont en train de dire ça va stigmatiser, on va machin. Mais... les gens qui ont envie de dire du mal du jeu vidéo, ils le disent déjà. Il n'y a pas besoin de ça. Les parents, ils sont déjà en panique. La panique morale, elle est là. On le voit aujourd'hui sur Fortnite et sur ce genre de choses. Moi aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des pratiques aussi dans le jeu vidéo, notamment directement venues des jeux d'argent, qui sont en train de se généraliser aujourd'hui pour des principes de faire du pognon, qui sont aussi scandaleuses parce que ça touche des...
C'est une catégorie très particulière de jeux aussi.
C'est une catégorie très particulière.
Non, mais
on l'a vu avec des free-to-play. C'était lequel là, celui édité par Nintendo qui jouait vachement dessus sur.
Il faisait quoi ce free to play? Enfin, il y avait quoi dans le jeu?
Tous les coffres, les trucs à jouer, les collections, c'est.
Waouh! Je me souviens plus du tout. C'est Nintendo?
Oui, là, sur Android.
Ah, je vois pas. Tu parles de Mythomo?
Non, celui d'après. Ça va.
Fire Emblem,
voilà. Avec des systèmes de collection, avec des trucs comme ça, qui imposent de revenir tous les jours. C'est aussi tous les trucs de Supercell, de plein d'autres, de Candy Crush,
enfin,
de trucs comme
pareil,
ça.
Hein,
Hearthstone, effectivement, fait pareil. World of Warcraft avait
moi,
des systèmes qui étaient
pareils. On peut pas mettre tout le jeu vidéo dans la même case.
Mais évidemment, par exemple, on peut dire aujourd'hui que Fortnite,
c'est pas ça.
Que Fortnite, eh ben, est un jeu basé sur le jeu. L'attrait pour Fortnite est un attrait purement ludique.
Après, le problème, c'est qu'on met le jeu vidéo dedans. À la rigueur, qu'on dise ce système particulier
exactement.
De lootbox fait partie du gambling.
Ce business model, ce procédé, je suis d'accord. Là, on met tout. C'est-à-dire
vous demandez beaucoup à l'OMS.
Je croyais que c'était des experts, faut savoir.
Non, je suis désolé. L'OMS, c'est des trucs qui vont durer 22 ans ou 28 ans. Parce que la révision précédente, après, c'est révisé après dans le temps. Mais en mettant jeu vidéo, c'est ça met en place des trucs de recherche.
Le problème, c'est l'écho grand public qui va être très simplifié. Ça va être tout le jeu vidéo qui va être concerné par ça.
Mais c'est déjà le cas. Les gens qui n'aiment pas les jeux vidéo, les gens qui trouvent que les jeux vidéo est une activité de débile, ils sont déjà là, ils ont déjà la parole, ils le disent déjà.
Surtout, ça ne va pas durer. Enfin, je veux dire, les gens qui jouent aujourd'hui aux jeux vidéo sont déjà parents. Enfin, je veux dire, c'est générationnel. On est dans l'évolution normale.
Mais donc, ces gens-là ne vont pas être en panique.
Jusqu'au jour où, voilà, ça sera vraiment classifié et qu'il y aura des actions sociales d'un point de vue des lois, des machins, et que ça va réduire le champ d'action de jeux vidéo. C'est ça, moi, que je crains. C'est plutôt qu'un mec un peu populiste arrive et dise « Oui, bah en fait, on va...
»
C'est déjà le cas Donald Trump. Il y a eu des citations de choses. Il y a déjà partout dans le monde des politiques qui veulent...
Et tu penses que ça va aider, ça ? Tu penses vraiment que de dire « Ah, le jeu vidéo, maintenant... » Enfin, l'addiction au jeu vidéo, je rappelle. Hein, l'action au jeu vidéo est classifiée comme une maladie mentale. Tu penses que ça va pas donner du grain à moudre à ces gens-là ?
Je pense que ça va pas changer grand-chose à ce genre de comportement. En Chine, avant le truc de l'OMS, il y a déjà eu une utilisation de l'addiction, de la supposée addiction aux jeux vidéo pour faire du contrôle politique de la jeunesse. Ça existe déjà, je veux dire.
Je trouve l'argumentaire étrange. Je me suis dit, ça existe déjà,
Je dis que c'est deux choses en parallèle. Je pense, après, moi, je n'y connais rien. Je ne suis pas addictologue. C'est pour ça que j'ai cité les deux camps. Je pense qu'il y a des gens qui ont repéré qu'il y a des problèmes. Il y a des gens qui nous pensent que l'addiction aux jeux vidéo est aussi réelle que le monstre du Loch Ness. Je cite Diable Roux, bien connu en France là-dessus. Il y a des gens qui n'y croient absolument pas, des gens très sérieux, il y a des gens très sérieux qui y croient. Voilà, après je pense qu'il n'y a pas à surdramatiser ce genre de décision. Je pense qu'il faut aussi se dégager, nous, en tant que professionnels, on rentre du jeu vidéo, il y a à se dégager aussi de ce lobbying venu de l'industrie, il y a à se dégager de cette forme de parole très, très dictée. Hein. Vu que tu es joueur de jeu vidéo, tu es censé défendre le jeu vidéo quoi qu'il arrive.
On a toujours attaqué les loot box, on a toujours attaqué ce genre de pratique dégueulasse de la part des éditeurs, et je suis le premier à critiquer ce genre de choses là. Ce que je dis simplement, c'est que c'est pas la fond, moi, qui me dérange. À la rigueur, qu'il y ait des gens qui passent, et on le voit, il y a des cas comme il y a des cas dans d'autres domaines, mais il y a des cas de gens en effet qui dépensent tout leur thune dans des free to play, les fameuses baleines. Il y a des mecs qui font des attaques cérébrales parce qu'ils restent des heures et des heures au cybercafé en train de jouer à des free to play. Je remets pas ça en cause. Je dis qu'il y a juste l'art et la manière de dire qu'il y a des pratiques qui sont pas bonnes dans le jeu vidéo et qui révèlent de la psychiatrie, en l'occurrence, c'est une réalité. Dans ce cas-là, faites les choses en entier. Dites que c'est le même cas pour les réseaux sociaux.
Ça va arriver.
Le jeu vidéo maintenant, alors ?
Parce qu'il y a un agenda de l'OMS aussi qui fait sa classification internationale des maladies. C'est ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à travailler sur cette classification en 2014. Ils ont fait un groupe de travail sur les pratiques numériques. Aujourd'hui...
Pratiques numériques, tu as mis le mot, c'est ce que je veux dire.
Laisse-moi terminer. Vas-y. Et aujourd'hui, avec les données scientifiques à leur disposition, ils sont arrivés à la conclusion que sur toutes les pratiques numériques, il y en avait une où les résultats étaient solides. Ils disent que le reste, il n'y a pas de problème. Résultats sont moins solides.
On parle du jeu vidéo, entre guillemets, est-ce qu'il y a des titres cités ou pas du tout ?
Non, il n'y a aucun titre. Les mecs font que définir qu'est-ce que c'est qu'être malade addictif jeu vidéo.
La perte de contrôle, la priorité croissante accordée au jeu, la poursuite ou l'escalade malgré des conséquences négatives, que ça dure 12 mois et que ça ait des répercussions sur la vie sociale, professionnelle, scolaire ou familiale. Voilà, c'est quand même un cadre de définition relativement restreint.
Et ils parlent même pas de pratique là-dedans. Ils parlent juste de
Joël Bilieu, que j'ai interviewé, m'a dit très clairement, et j'ai trouvé que ce passage de l'interview assez intéressante. C'est vrai que certains parents sont aujourd'hui tellement dépassés par le comportement de leur enfant qu'ils peuvent vite y voir une pathologie. Il est fréquent d'entendre des parents catastrophés, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui décrivent des crises de colère impressionnantes au moment où le wifi est coupé. Mais la colère a dans ce cas une cause très identifiée. Imaginez un enfant qui s'entraîne toute la semaine pour un match de foot et que ses parents viennent chercher sur la pelouse juste avant le coup d'envoi. Sa colère serait comparable et ce serait tout à fait normal. Il est aussi important, et c'est lui qui le dit, c'est l'expert de l'OMS qui a fait ce texte. Il est aussi important de garder à l'esprit que beaucoup de joueurs passionnés peuvent avoir une pratique intensive sans pour autant présenter de perte de contrôle ou des conséquences négatives sur le plan personnel, professionnel ou social. À ce titre, et là je trouve que c'est important que ce soit l'OMS qui le dise, à ce titre, le nombre d'heures passées à jouer n'est pas pas un indicateur valide d'une utilisation pathologique. Ouais. Et il conclut quand même, mais ce n'est pas parce qu'une pratique ne pose aucun problème sanitaire pour la vaste majorité qu'on doit s'interdire de traiter des problèmes.
Non, bien sûr.
On est sur quelque chose de raisonnable.
Encore une fois.
Je dis pas que c'est vrai. Hein. J'ai pas cette expertise.
Je remets pas en cause le fond parce que je pense que l'OMS fait son travail et tout ça. Encore une fois, c'est une histoire de com et de c'est une histoire bien de sûr. Façon dont tu présentes les choses. Ça rajoute à la diabolisation. Ça va juste ralentir tout. Quoi,
l'image du jeu isolant qui, pour moi, est aussi un cliché. Enfin, aujourd'hui, le jeu vidéo, il est social. On se fait des amis avec le jeu vidéo.
Pour moi, ça ne revient pas en compte. Après, il y a tout ce logique de la com, la panique morale, comment ça va être récupéré, comment ça va être utilisé, manipulé, comment ça va être instrumentalisé.
Est-ce que
c'est le rôle de l'OMS de prévoir
Moi,
je suis pas convaincu. C'est factuel ce qu'ils disent.
Moi, je leur reproche juste deux choses. C'est en effet le marketing et la com, et le fait d'avoir fait les choses à moitié. Le jeu vidéo n'est qu'une pièce dans un environnement numérique.
Et le jeu vidéo est multiple.
Oui, le jeu vidéo multiple. Mais encore une fois, c'est pas leur problème.
Peut-être que dans une révision ou tout ça, ce sera enlevé. D'ailleurs, c'est pas le texte. Le texte sera voté en assemblée nationale, en assemblée générale, de l'OMS en mai 2019. Donc, il peut encore.
C'est ça aussi mon problème, c'est que c'était quoi déjà la précédente révision? C'était 2006.
90.
90.
C'est sûr, 90. Il me semblait qu'il y en avait une avant.
Il y avait eu des révisions de la classification internationale des maladies. Mais le texte de la 10e révision, là c'est la 11e, la 10e révision date de 90.
Mais il me semble que la dernière, en tout cas mise à jour, alors peut-être à la marge ou quoi, mais elle datait de genre de ne serait-ce que 2006. Il me semble que j'avais ce chiffre-là, ou 2008, je sais plus exactement. Mais voilà, t'as vu le temps que ça donne.
Mais oui.
Et tu vois, si jamais on fait un truc pas bien, faudra attendre encore 5-10 ans avant de pouvoir changer quoi que ce soit dans une telle révision.
Mais
tu vois.
Aussi, je vous dis, moi je pense et j'entends autour de moi, on l'entend énormément, moi parmi mes collègues en ce moment et tout ça, sur Fortnite, parce que Fortnite a pris énormément de parents de cours. La panique morale, elle est déjà là. Chez les gens qui ne jouent pas.
N'oublie pas ton biais de parents aussi. Hein.
Moi,
je l'entends pas de mon côté. Donc tu vois, il peut y avoir des biais.
Moi, j'ai pas d'ado. Mon gamin joue pas à Fortnite.
Après, si tu dis que les salles d'attente sont remplies,
il y a des listes d'attente. Ouais. C'est dans les centres d'addictologie. Et ce que disait Joël Bilieu, qui a travaillé en centre d'addictologie, il dit le truc, c'est que cette définition-là pourrait nous permettre de réduire ces files d'attente. Pour traiter surtout les cas vraiment graves envoyer les autres chez des thérapies familiales.
En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite et j'espère qu'au moins on récupérera ce bon côté de cette nouvelle classification de l'OMS.
Donc nous sommes encore aux news d'intro.
C'est pour ça que
c'était il y a combien de temps le début de l'émission, rappelle-moi.
36 minutes.
Ah oui, c'est ça. Voilà. Le com des com.
Non, mais sujet important.
Sujet intéressant. Ils vont pas nous en vouloir, je pense pas.
Alors j'ai déjà à préciser un com des com il y a deux semaines quand même, parce qu'il y a un commentaire qui est arrivé d'un pseudo qui s'appelle Hercule007. Je confirme qu'on va continuer à pousser Machiavellan avec des updates. C'est le développeur de Machiavellan qui nous a parlé sur les forums officiels de Silence on Joue, donc je voulais relayer ça. Il va y avoir des updates à Machiavellan et on en est très content. Et alors pour le com des com, donc il y avait quand même des choses à dire sur Vampyr, sur l'E3. Sur l'E3 quand même, il y avait des choses à dire sur cette E3 quand même. Les commentaires de Silence on Joue sont donc dédiés. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? De Corentin, voilà, c'est ça. Et il y a eu tout un débat pour comment traduire Silence on Joue en japonais, avec l'intervention donc de Boopflo qui a proposé. Toi, je ne me rappelle même plus, c'était quoi ta proposition?
Je crois que j'avais dit Shizukani Asobimasho.
Là, c'est un Shizukani Ason Derun Dayo.
Oui. J'aime bien.
De Boopflo. Et après, Sitoplasme est arrivé avec un Damate Kure Gemu Oshitorun Dayo. Je m'excuse pour la prononciation, évidemment, parce que moi je lis du phonétique.
C'est ça, j'ai lu la feuille, c'est du phonétique. C'est
voilà, un débat qui a été relancé par Boopflo qui a proposé Gemu Shite Ndayo. Alors en longueur, je trouve que c'est ma proposition préférée pour le dire.
En vrai, je pense qu'il y a une autre piste qui n'a pas été approfondie. Non mais attends, tu vas comprendre. C'est que Silence on Joue, on est d'accord que c'est Silence ça tourne. Enfin, ça vient de, c'est un peu la même chose.
Ouais,
il faudrait récupérer la phrase iconique que disent les Japonais sur des tournages pour savoir comment réutiliser ce truc-là et le transformer avec du.
La semaine prochaine, on fait l'espéranto.
Voilà.
Allez, allez, on y va. Voilà, donc je rappelle que vous pouvez commenter les émissions et je pense qu'il y aura débat, notamment sur cette décision de l'OMS, dans les forums officiels de Silence on joue. Eh bien, on va commencer à parler de jeux vidéo. On va commencer avec quoi ?
On parle de jeux vidéo aussi.
Mais on parle de jeux vidéo. On va commencer par causer de Mila Noir.
Tre anni di prigione sono lunghi. Che intenzione da fare adesso? Voglio trovare quel bastardo che mi ha mandato dentro. Questo tradimento è una cosa che si porterà dietro fino alla fine dei suoi giorni. E non sono molti. Se c'è una cosa che ho imparato dalla vita è che non esistono amici, soltanto complici.
C'est cool quand même l'anglais, c'est cool l'italien, pardon, on a tellement de bandes annonces en anglais que voilà, une petite bande annonce en italien, c'est pas mal. Mila Noir, on est chez les gangsters, on est dans la mafia, on est en Italie.
Donc c'est un jeu développé par un petit studio qui s'appelle Italo Games, je crois, studio milanais, donc qui sait bien de quoi il parle du coup, il connaît bien. Alors moi ce qui m'a tout de suite frappé sur ce jeu, c'est l'ambiance évidemment, puisque ambiance polar italien des années 70, avec cette ambiance...
Assez daté.
Assez très daté,
on l'entend. Bien les années 70, on a un peu soupé des années 80, donc
on n'a jamais assez soupé des années 80.
Oui, non, mais
les années 70 ont aussi leur cachet, notamment en Italie où il y avait tout un cinéma d'exploitation qui était fabuleux avec justement du film policier, assez engagé en termes d'action, d'imagerie, voilà, qui était assez trash. Et donc ce jeu, il s'inscrit vraiment dans cette imagerie, dans toute cette tendance du cinéma de l'époque. Et donc il se présente comme un jeu d'action. Donc on va incarner Pierrot, qui est un tueur à gages, porte-flingue qui va être envoyé sur plusieurs missions. Lui, il fait partie évidemment d'un groupe mafieux, et puis il va avoir plusieurs missions de nettoyage de groupuscules ennemis, et voilà, donc on incarne ce perso et puis on se lance dans un jeu d'action avec qu'on peut jouer à la souris ou plutôt à la manette, parce qu'il est sorti sur PC mais aussi beaucoup sur console, sur à peu près toutes les consoles je crois, et qui se joue avec les deux sticks. Mais on n'est pas dans un pur dual stick shooter comme on peut l'entendre, qui est une catégorie bien délimitée. Là, il y a quand même une particularité, c'est qu'on a donc, en gros, pour faire simple, on a un stick qui dirige le personnage à l'écran, un petit bonhomme. Alors, on peut dire, le look, on a entendu la musique qui est très typée années 70. Et moi, j'aime beaucoup le style graphique du jeu, qui est très, très bande dessinée des années 70 avec
un mix BD pixel art.
Pixel art et BD années 70 avec des personnages qui ont une forme très caricaturale, des petites jambes toutes fines qui marchent assez vite. Enfin, il y a un vrai style graphique, moi, je trouve, qui passe bien à l'écran. Et donc, on a un stick pour diriger le personnage à l'écran, et avec l'autre stick on dirige la mire, en fait on dirige sur tout l'écran, on dirige notre viseur pour pointer les ennemis à l'écran. Alors moi, ça, bon, vous allez dire que je vous parle de jeux que les plus jeunes n'auront pas connus. Moi, ça m'a tout de suite rappelé un jeu que j'avais beaucoup aimé en 1989, les amis. Corentin, 1989.
Ma date de naissance.
voilà. Bah, écoute, tu vois, j'étais déjà accro. Tiens, on en parlait tout à l'heure. J'étais déjà accro sur mon Amstrad ou mon Amiga. Je jouais à Permis de tuer, qui était l'adaptation du James Bond de l'époque. Un bon cru, d'ailleurs. Et c'était un des premiers bons jeux de la licence Bond. Parce qu'on avait eu des précédents qui étaient discutables. Moi, j'en aimais bien certains. Mais voilà, Permis de tuer, c'était un vrai jeu d'action intéressant. Puis j'aimais notamment un passage comme ça en vue aérienne où on dirigeait son personnage. Et on dirigeait comme ça. On tirait pas en mode action directe. On dirigeait son viseur et on devait avancer comme ça en vue aérienne.
C'était la série des commandos et des choses comme ça.
C'était un commando, mais un petit peu plus évolué. Parce que du coup, on devait vraiment positionner son viseur. Et moi, j'avais beaucoup. On est en 89, donc les FPS, tout ça, ça n'existe pas. Et ça apportait un petit côté, pas stratégie, mais presque. C'est-à-dire que les déplacements étaient très calibrés. Il fallait faire attention à ses mouvements, comment on orientait son tir. En plus, les balles étaient comptées, contrairement à Mila Noir, on peut y aller franchement. Ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé ce gameplay un petit peu particulier où à la fois on doit se diriger et en même temps on doit faire très attention à la façon dont on positionne son viseur. Et en fait, on est dans de l'action, on est vraiment sur un shooter, mais un petit peu plus que ça. Il y a une petite composante de pas cérébral, mais on n'est pas dans l'instinct immédiat à la seconde. C'est-à-dire qu'on doit toujours un peu précalculer son tir, on doit faire attention à où vont se déplacer les ennemis, évidemment choisir lesquels on va abattre en premier, et c'est plutôt malin, et je trouve que ça marche. Alors j'ai un peu galéré, d'ailleurs je t'ai parlé à Erwan, parce que moi j'ai lancé donc sur Steam, et on peut pas redéfinir les touches dans le jeu. Alors, ça en 2018, ça Alors on peut retoucher les touches du clavier.
Bind to key, mec, bind to key.
Bref, il faut toucher tout ça. Et finalement, je me suis rapatrié sur la manette. Et finalement, ça marche très bien la manette aussi, ouais, avec les deux sticks. Et encore une fois, moi, je trouve que ça marche bien. Ça peut perturber quand on s'attend à un pur jeu d'action, genre, voilà,
dual stick. En fait, moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'est que vu le look, vu l'ambiance, ouais, le design, et puis le thème, hein, qui est...
Ouais, de l'action, on est sur de l'action.
De buter ses adversaires, etc. C'est vrai qu'il y a au début, on se dit, est-ce que ça, c'est façon Hotline Miami?
Non.
Ouais. Voilà. Non, mais moi, ça a été un peu le truc qui m'a dérouté, c'est que, est-ce qu'on est sur une logique un peu corrigée graphique, ouais, un peu Die and Retry façon Hotline Miami? Pas du tout. Non, on est sur quelque chose de beaucoup plus abordable. Ouais. Les ennemis sont assez faciles à buter,
au début,
etc.
Au début.
Oui.
Ah, très
non,
vite.
Mais, non, mais très vite, il y a des patterns à comprendre.
Il y a une forme de chorégraphie.
Mais
aussi,
Hotline Miami, dès le début, tu meurs.
Là aussi, hein, moi, j'ai eu quelques boss où j'en ai pris plein. Il y a des moments un peu tendus.
Mais voilà, on est plus sur une logique avec de la chair à canon d'un côté et des boss de l'autre et ce genre de choses, avec des boss qui sont super rigolos.
Ouais, les mises en
buter.
Scène, en fait, le jeu, il est vraiment rythmé. Ouais, moi, c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que ça n'arrête pas. Il y a toujours des scènes d'action. On évolue dans des niveaux qui, visuellement, ont vraiment des cachets. Il y a plein de petits détails graphiques. On est sur du pixel art, mais bien digéré. Il y a plein de petits trucs. Alors, des fois, c'est trash. Moi, j'étais surpris aussi par le ton du jeu. Il y a des scènes de meurtre. Je ne vais pas spoiler, mais il y a une scène de meurtre qui arrive assez vite. On se dit, ah ouais, quand même. On est presque même mal à l'aise, donc c'est vraiment pas un jeu. Il y a des petits moments un peu fripons aussi, on se dit ah ouais quand même, vivons. Donc c'est pas un jeu. Oui,
je suis très très fan de fripons.
J'aime bien.
C'est pas forcément un jeu à mettre dans toutes les mains comme ça. Enfin, il faut faire attention. Puis voilà, il y a vraiment des scènes de meurtre assez dures. Mais en dehors de ça, moi j'ai vraiment bien aimé ce côté. Ouais. Si on y va comme un bourrin, comme dans un shooter classique, on va pas aller très loin, parce que il faut vraiment mesurer ses coups, mesurer ses trajectoires, et ça, je trouve que c'est vraiment une réussite. On va vite apprendre à diriger donc ce réticule qu'on bouge à l'écran, c'est pour donner ou un sens, c'est-à-dire qu'on va tirer dans le sens d'un ennemi, ou pour viser un ennemi aussi directement quand on a le temps, parce qu'il faut aussi jongler avec ses priorités et ce qui se passe à l'écran. Il faut une bonne dose de zen aussi, il faut vraiment maîtriser l'interface, et moi je trouve que ça marche bien. Alors moi il y a des petits bémols, moi je trouve que le système de couverture pour se cacher est pas toujours bien. Moi j'ai joué, il y avait une gâchette, c'est pas très précis, c'est dommage sur un jeu comme ça où notamment face au boss, il faut vraiment jongler avec. Il y a eu 2-3 fois où j'avais la manette qui me démangeait, que j'avais envie de jeter, comme en 89 où je jetais mon joystick, mon Speed King à l'époque. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais il tenait. Hein. Le Speed King, il en a vu et il fonctionne encore. Mais bon, voilà, ça c'est un peu un bémol, parce qu'en fait on a ce système de couverture qui fait qu'on peut aussi glisser si on donne un mouvement. Donc on fait, mais c'est pas très très précis. Bon, il faut s'y faire.
Ça te met dans le beau drap, quoi, ce système de couverture. Vous l'avez, couverture.
Ah ouais. Bon. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Bon, il faut passer tout ça. Il faut passer ce système qui est encore une fois. On est sur de l'action, mais c'est un petit peu plus que ça. Et moi, j'aime ça. Moi, j'aime les jeux qui questionnent un petit peu le genre.
En bémol, moi, je m'attendais vraiment. Enfin, j'ai joué parce que tu m'en as parlé. Hein. Je m'attendais à rien.
C'est un bon départ déjà.
Ouais.
L'annonce de Chalon.
Tu peux pas être déçu. Hein,
voilà, c'est ça. Donc,
ça va. Ouais.
Non, j'étais très agréablement surpris par l'ambiance. L'intro est marrante, les premiers niveaux sont marrants, les boss sont marrants. Il y a une variété de décors. De
mise en scène, ça qu'on n'a pas parlé, mais il y a les boss, la façon.
Il y a des choses sur la route, il y a des choses où on pilote des. Enfin voilà. Donc il y a plein de variations de gameplay comme ça qui donnent une sorte de.
Il y a les ricochets. J'ai oublié d'en parler. Les ricochets contre les panneaux.
Les ricochets contre les panneaux, c'est très très bon.
Il ne faut pas oublier parce que c'est utile dans le jeu.
J'ai
un peu mis de côté à côté. À un moment, je me suis
dit. Ça permet de rester à couvert.
Ça permet de one-shotter en fait.
Tu one-shot direct des mecs qui sinon peuvent te mettre la misère. Voilà.
Ça c'est cool. Moi j'ai mon petit bémol, mais qui est purement technique là pour le coup, parce que dans ce genre de jeu, j'aime bien que les respawn entre guillemets, la phase après la mort soit bien pensée pour qu'on retrouve directement l'action. Je dis pas qu'on doit respawner, enfin revenir direct juste avant le dernier ennemi. On peut revenir à des points. Mais il y a des moments de respawn qui sont relous, parce que il y a on respawn et puis il y a 10 secondes ou 5 ou 10 secondes sans jeu. C'est-à-dire on va respawner juste avant une petite scène
une scène préprogrammée, un boss, un script,
juste avant un script. Et en fait, dans ce type de jeu, jeu, j'aime juste que le jeu nous renvoie dans l'action directement. Je trouve que c'est ce qu'avait réussi Hotline Miami, où bah, on s'en foutait de mourir parce qu'on restait dans une sorte de chorégraphie
c'était
tout ça.
Une rapidité aussi. Voilà. Enfin, voilà, et
là, il y a quelques points où je me dis bah, pourquoi je dois me retaper encore cette scène de 5 secondes ou 10 secondes.
Qui sont jamais trop longs. Non, c'est pas un jeu verbeux. Enfin,
mais c'est vrai.
Même 5 secondes plus 5 secondes plus 5 secondes.
Ce qui m'a plus embêté, c'est quand je quittais le jeu, que je revenais, et en fait, la sauvegarde se limite vraiment au chapitre. Des fois, tu dois te retaper.
Donc, du coup, voilà.
Ça, c'est des choses qu'on peut éviter.
Voilà. Normalement, on peut éviter ça.
Ça, et puis le remapper les touches. Bon, ça, je sais que je suis embêtant avec ça, mais c'est un truc.
Mais j'ai trouvé très agréable. Je ne sais pas combien
il. Il n'est pas très cher. Je crois qu'il est en les 15 euros, 12-15 euros. Il est sur Switch, sur les Xbox, PS4, je crois, et puis PC aussi.
Ouais,
vraiment une bonne surprise. Puis l'ambiance. C'est vraiment quand on aime ce genre d'ambiance.
Bonne musique.
Ah, les musiques sont bien. Les graphismes sont rigolos. Et franchement, une bonne surprise. Moi, j'aime bien.
Allez, on va aborder maintenant le retour de la peinture avec un DLC qu'on m'a dit très cool, mais je ne connais pas du tout, je n'ai jamais joué à ce jeu. C'est Splatoon 2 Octo Expansion. Non, j'ai choisi ce petit extrait sonore de trailer de cette Octo Expansion de Splatoon 2 qui amène un sacré paquet de niveaux solo dans le jeu de Nintendo.
Oui, bah en fait, Splatoon, ça reste une licence, ça reste la licence multijoueur, on va dire, un petit peu sérieuse, entre guillemets, de Nintendo, même si, bon, c'est pas non plus, Nintendo n'est pas spécialisé dans ce domaine-là, mais oui, Splatoon, quand on pense à Splatoon, on pense d'abord au match 4 contre 4, dans des arènes fermées, en pro, avec des classements et compagnie. Donc, le solo n'a jamais été la spécialité de cette licence-là, même s'il est présent, et à titre personnel, c'est mes modes favoris de Splatoon. J'adore les passages de plateforme de niveau des Splatoon, que ça soit du premier, du deuxième, qui avait remis un nouveau mode solo tout à fait neuf, hein, 35 nouveaux niveaux complètement changés, alors que on avait peut-être critiqué Splatoon 2 pour le fait que c'était un petit peu Splatoon 1 Deluxe avec juste une mise à jour.
Pardon, excuse-moi, juste pour resituer, c'était plus des niveaux de practice, enfin d'entraînement quasiment, non dans mon souvenir. J'ai pas fait le 2, mais...
C'était de la plateforme, c'était vraiment, c'était des niveaux de plateforme, quoi. Plateforme shooter, action, alors évidemment, tu peux t'en servir pour...
Mais il n'y a pas une narration folle, quoi. C'est pas le but.
Splatoon, c'est pas une narration, c'est plus un univers. Une esthétique, des musiques, c'est un peu particulier, ça plaît pas à tout le monde. Alors moi je suis à 200% à l'intérieur, j'adore Splatoon pour ce que c'est, pour son univers, pour la fraîcheur que ça apporte, et j'adore aussi le gameplay de Splatoon, et c'est pour ça que ces niveaux solo là me plaisaient bien, parce que ça permettait en fait de mettre en application un système de jeu, mais enfin il y a que Nintendo qui peut sortir des systèmes de jeu comme ça, un système de jeu où vraiment voilà, tu repeins, tu nages dans l'encre, le but du jeu c'est pas de se tirer dessus mais de repartir, d'avoir le plus grande surface d'encre récupérer. Il y a Nintendo qui peut partir d'un concept et ensuite construire un univers autour et pas l'inverse, comme dans beaucoup de jeux, c'est le cas.
Il n'y a pas un mode de Battle Royale, non sur...
Non, mais non, ça pourrait être intéressant.
Je vois bien que les peintures dans un énorme truc.
Bon, en tout cas, Octo Expansion, la promesse que Octo Expansion devait apporter, c'était apporter un nouveau mode solo, enfin rajouter encore un mode solo encore plus fort, et en l'occurrence, 80 niveaux, donc c'était 35 niveaux le mode solo de Splatoon 2, 80 niveaux, donc voilà, ça montre un petit peu la taille du machin, même si des niveaux qui sont parfois un peu plus courts que les niveaux classiques, on va dire. Voilà. Et donc, il y avait une attente qu'il y avait dans Splatoon 1 et qui n'a pas pu être concrétisée, à mon sens, parce que la Wii U était, n'a pas marché du tout. C'était de pouvoir jouer les ennemis dans l'histoire de Splatoon, qui sont les. Voilà, vous avez les Inklings, vous avez les Octolings, donc vous avez les Calmars et les Pieuvres, hein, grosso modo. Et les Pieuvres, c'est les ennemis, les rivaux. Et donc, on attendait de pouvoir jouer les pieuvres, mais ça n'a pas pu se faire. Alors que c'était codé dans le jeu, il y a des hackers qui ont réussi à le faire. donc, ils ont intégré les Octariens, comme ils s'appellent, dans ce DLC. On joue un Octarien, donc il se réveille très très profondément sous la ville où se déroule l'action de Splatoon. Et en fait, on va évoluer dans un métro. C'est ça qui est assez cool. On va évoluer dans un métro souterrain, et en fait, chaque station est un niveau, est une chambre de test, et donc le but, ça va être de récupérer 4 objets, enfin il va falloir atteindre 4 lieux dont on ne connaît pas encore la localisation au début sur ce métro, pour ensuite débloquer la dernière phase où on remonte à la surface avec c'est une phase ultra épique. Enfin, je ne dirai rien, juste la phase de fin est extraordinaire. J'étais trop content quand j'ai vu cette phase, elle est vraiment amusante. Mais bref, repartons sur le métro. Donc le métro est intéressant dans la façon dont sont disposés les niveaux, parce que du coup vous pouvez pas aller où vous voulez, vous savez pas à quoi ressemble la carte, vous découvrez juste les lignes au fur et à mesure où vous passez sur les lignes. Donc en fait vous savez juste que tiens, ce niveau là c'est une correspondance. Donc en fait vous arrivez sur la correspondance et paf, ça débloque la ligne quand vous avez fini le niveau. Et donc vous voyez, ah oui, donc on va aller par là-bas, et il y a il y a un objet. Est-ce qu'il y a une des reliques qu'il faut récupérer ou pas? Peut-être pas, des fois c'est juste une ligne qui va faire le lien entre deux lignes importantes. Mais je trouve ce système d'évolution assez cool, et je serais même content si d'autres jeux s'en inspiraient pour créer des c'est une évolution de la world map qu'on avait dans les jeux de plateforme avant.
C'est un hub assez cool en fait.
C'est un hub, c'est assez malin et intéressant. Je pense que pour l'approfondir, on pourrait même réfléchir à des systèmes de genre niveau très difficile sur les correspondances, pour justement, tu veux débloquer une ligne, ok, mais alors il va falloir vraiment douiller. Et en plus, ce système de métro a été doublé d'un système de points. Donc en fait, votre personnage a une carte de métro en fait, ce qui est chargée en crédit, un petit peu comme au Japon. Vous savez, en fait, vous n'avez pas de passe Navigo, ou comme à Londres, vous n'avez pas de passe Navigo, vous avez de l'argent sur votre carte, et en fait vous bipez et ça va prendre en fonction de la distance. Et en fait, chaque niveau a un prix, et en fait, si vous voulez ce prix vous donne un certain nombre de vies, donc ça peut être 1, 3, 5 vies, ça dépend le niveau. Et si vous dépensez toutes vos vies, il faut repayer le ticket. Et donc en fait, il y a une gestion comme ça des points, pas trop perdre. Des fois, vous dire, bon là, je perds trop de points, faut que j'arrête.
C'est pas de l'argent réel, hein, tu
c'est
me
pas
rassures.
De l'argent, hein, ouais. Non. L'OMS peut dormir sur ses deux oreilles. mais du coup, c'est des points en jeu. Mais en fait, vous récupérez des points quand vous finissez le niveau, mais des fois, vous aurez perdu des points parce que vous aurez tenté trop de fois, vous n'aurez pas réussi à rentabiliser votre niveau.
Donc, ça met un peu une pression quand même.
Ça met une petite pression. Ouais. Donc il y a des moments où tu fais, bon là, j'ai perdu trop de points, il faut que je recapitalise, donc je vais faire d'autres niveaux plus faciles pour récupérer des points.
C'est bien.
Il y a le chef de votre métro qui, dès que vous découvrez une ligne, vous donne des points. Il y a des moyens de récupérer des points autrement et tout ça. Voilà. Alors après, pour ce qui est des niveaux en eux-mêmes, alors on est dans du pur Splatoon habituel. Donc on est dans la plateforme qui pourrait presque s'apparenter à du Mario Galaxy, tellement en fait c'est des îles flottantes. En fait, on est sur des plateformes en fait il faut finir certaines plateformes pour passer à la plateforme suivante. Parfois il y a des allers-retours qui se font dans de rares niveaux, mais dans l'ensemble c'est quand même des évolutions assez linéaires. Et le but en fait, ça va être de prendre le système de jeu de Splatoon, donc ancrer, nager dans l'encre et utiliser différentes armes. Donc il y a les pistolets normaux, il y a les snipers, les rouleaux, les seaux, donc des seaux, hein, des seaux d'eau que vous jetez de l'encre avec. Il y a les Gatling, il y a plein d'objets. Il y a les parapluies aussi maintenant qui sont dans le truc, donc qui permettent de bloquer les tirs ennemis, mais en même temps c'est un fusil à pompe, donc c'est plutôt assez intéressant à jouer. Et donc ils vont prendre ces armes, et ils vont évidemment les décliner, faire des niveaux qui vont être entièrement basés sur un type d'arme, et des niveaux qui sont aussi particulièrement varié au niveau des règles. Vous avez des niveaux où vous avez de l'encre limitée, et si vous finissez votre rank, vous explosez et vous devez recommencer à partir du dernier checkpoint. Si vous avez des niveaux, vous devez reproduire des c'est un peu du Picross, c'est-à-dire que vous avez des caisses comme ça qui sont vous avez des tas de caisses, et vous avez une statue, et avec il faut casser les bonnes caisses pour reproduire la statue qui est de l'autre côté. Et si vous cassez la moindre mauvaise caisse, paf, vous explosez, et vous avez un checkpoint qui est au milieu, mais c'est à vous de décider quand vous l'enclenchez, à quel moment vous voulez sauvegarder votre progression.
Tu me le vends pas mal là.
Il y a aussi il y a des niveaux où il faut pousser une bille jusqu'au bout dans un trou, donc faut faire attention parce que et ça se marie très bien avec d'autres mécaniques. Par exemple, dans Splatoon, il y a ces éponges qui grossissent si c'est votre encre, et qui rétrécissent si c'est l'encre ennemie. Donc vous avez des chemins entiers en éponge, et vous avez des ennemis qui arrivent, coucou, je viens de tirer dessus, mais même si je te rate, ça touche l'éponge rétrécit, la bille tombe et t'as perdu. Donc il y a vraiment plein de choses.
Comment tu vois ça? Est-ce que c'est une friandise en passant comme ça avec un mode solo, ou est-ce que ça peut être une prochaine orientation pour Splatoon qui pourrait aussi se dégager du côté multi et explorer justement une velléité de jeux solo?
N'ayant pas à titre personnel le temps d'être compétitif sur Splatoon, ni le talent d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens, c'est des malades sur Splatoon, ils sont trop forts.
Déjà sur le premier, je me rappelle que ça commençait
ils sont vraiment trop forts. Enfin, moi c'est difficile. Bon, après l'avantage c'est qu'on joue avec les gens de son niveau, donc on peut progresser. Puis le Splatfest, ça reste marrant et tout. Splatfest, hein, c'est ces événements qui se déroulent de temps à autre pour décider de qui est le plus fort entre Donatello et Michelangelo pour... Non mais vraiment, il y a eu littéralement un Splatoon comme ça. Donc moi j'adorerais qu'il fasse un Splatoon spécialement solo, et c'est un ça peu ce que j'ai avec Octo Expansion finalement.
Part,
j'aimerais un peu plus de lore, un peu plus d'histoire, un peu plus construite, parce que j'adore l'univers Splatoon.
C'est une des dernières grosses créations de Nintendo en termes de IP.
C'est la dernière,
tu peux le dire, c'est la dernière qui sent le Nintendo vraiment, tu vois, qui se dit ah ouais.
Et qui a réussi vraiment à s'imposer.
Ah ouais, qui au Japon est un carton, c'est vraiment très bien. En Occident, ça prend un peu moins, mais ça reste un bon succès. Je crois que c'est 6 millions de ventes au dernier chiffre sur Switch.
Alors, moi, j'ai pas acheté le 2. Est-ce que tu me le conseilles? Parce que si on prend le 2 plus l'extension, ça fait quand même un petit budget. Avec
Ça doit faire du 70 euros.
Ouais, ça commence à taper un peu. Donc,
tout dépend, c'est difficile. Octo Expansion. Alors, faut savoir un truc.
Parce qu'il est pas standalone.
Il faut que j'ai oublié de préciser un truc. Octo Expansion est ultra dur.
Un signe YouTube que je pourrais avoir des difficultés.
Il est ultra dur. Franchement, il est méchant. Il est méchant. Mais c'est de la bonne méchanceté. Hein. À la Nintendo. On n'est pas trop vénère.
Dans l'échelle de Céleste, c'est une fraise, deux fraises ou trois fraises.
C'est deux fraises. En fait, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas eu assez avec le mode solo de base, sur les derniers niveaux quand même était assez difficile. Mais là, il y a des niveaux vraiment. Genre, vous avez des passages limite en rail shooter où vous êtes là en train de surfer sur votre ligne d'encre. Il y a des lignes d'encre comme ça et votre personnage est en train de surfer, vous tirez avec vos pistolets, c'est très très classe. Mais vous avez, donc c'est un jeu de cible, si vous ratez une cible, vous avez perdu.
Ah oui.
Et il y a 60 cibles. Bonjour.
Ah ouais, ouais.
Voilà.
Quand même.
Alors on vous donne 5 vies, certes, mais voilà, ça va vite, hein, ça va très 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 vite. Parce qu'en fait, si vous ratez une cible, la ligne suivante ne s'active pas et vous tombez dans le vide, tout simplement. Donc c'est assez difficile.
Que ce soit pas un standalone. C'est vrai que tu nous donnes envie là, mais du coup, il faut avoir le jeu d'origine.
Ça aurait pu être un standalone, c'est vrai, mais en vrai, je pense que le jeu vaut mieux d'abord faire le solo normal
qui intègre le jeu de base. Qu'il y a une progression aussi de.
Ce que Splatoon, c'est quand même un peu particulier. Je dis pas que c'est pas facile à prendre en main. Je pense que Splatoon est assez facile à prendre en main, mais je pense que le plus difficile, c'est d'apprendre à gérer le gyroscope. Alors, on peut tout à fait jouer sans le gyroscope et jouer uniquement avec les deux sticks.
Déjà,
mais,
sur Wii U, je me rappelle.
Mais c'est raide. Mais là, avec le gyroscope, avec la manette pro, franchement, c'est très, 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 très cool. On est très précis. Moi, je suis meilleur à.
Avec la pro, tu as le gyroscope.
Ah, bien sûr.
Coup, tu joues aussi comme ça.
Même avec les deux, comment ça s'appelle,
les Joy-Con, sticks,
ça marche. Mais ça rend la chose précise. Splatoon, c'est fait pour jouer au gyroscope. Hein. Ouais. Tu es beaucoup plus précis. Les pros jouent au gyroscope. C'est vraiment une nouvelle façon de jouer au FPS.
C'est bien ça.
Enfin, au FPS, au shooter plutôt. Sur console. Et pour conclure, je dirais que l'OST est dingo. Autant sur Splatoon normal, on était sur du chose un peu presque un peu enfantin, un peu rigolo, un peu Nickelodeon, j'arrive plus à dire
Nickelodeon.
J'arrive plus.
C'est un gros mot ce que tu dis en fait.
Autant là, on était sur de la J-pop, un peu des trucs comme ça, un peu de la pop japonaise. Là, on retourne presque sur du rap. Enfin, c'est du hip-hop années 90, donc un peu.
Oh, c'est bon ça.
Voilà. Alors, c'est évidemment des poulpes qui chantent, donc ils font quand ils chantent, mais c'est super cool. Les deux personnages,
tu fais bien le poulpe.
Les deux personnages qui sont mis en avant, donc qui sont les deux starlets de Splatoon 2, sont littéralement cosplayés en Notorious Big et en Tupac. Enfin, c'est pour vous dire, t'en as une qui a le petit bandana de Tupac et l'autre qui a la couronne de Notorious Big et qui a une grosse chaîne autour du cou. Enfin, c'est super cool quoi.
Ah ouais.
Et toute esthétique est années 80, c'est à la mode et 90, 92, 93 jusqu'au final où là on est dans de la vaporwave à fond les ballons. Donc je recommande aussi pour son OST qui est dingo. Voilà, Octo Expansion, je recommande pour ceux qui ont déjà le jeu et qui ont aimé le solo et qui l'ont fini. Finissez d'abord le solo normal avant de vous acheter l'Octo Expansion. Il est dur.
Ça fait envie.
Tant mieux. si je peux rajouter des copains sur Splatoon.
Allez, on va lui donner sa chance. En plus, l'été arrive, tout ça. C'est une bonne période pour se mettre à ce genre de choses. Allez, il faut aborder ce dernier, pas le moindre, ce dernier jeu de la semaine avec une production que j'ai trouvé assez inattendue. J'avoue que j'avais pas prévu de jouer à ça. Je l'ai vu débarquer dans Steam et très haut, très vite. Alors je me suis dit, c'est quoi il faut que je regarde.
Il y a la sortie du film en même temps. Il y a aussi tout un buzz avec.
Ah mais alors justement, la sortie du film me faisait penser que ça allait être une sorte de détournement sans intérêt, mais au développement, on trouve un certain Frontier Development.
Pas des moins.
Donc avec
les
du Elite.
Les gens ont fait Dog's Life sur PS2 qui était...
Dangerous quand même.
donc
c'est Jurassic World Evolution.
You think that things are going to turn out differently, huh? Well, the ones before you did too. Because they believed that they were in control. And control
Well, here's the thing. Humanity is desperate for it. We are seduced by it. Deceived by the illusion of it. But we never really possess it. Because if there's anything that chaos theory has taught us, it's that nature is on its own course. And when we interfere, when humanity tries to put nature into orderly boxes, chaos destroys them.
Ouais, des dinosaures.
Ah bah ouais.
Mais quelque part, voilà. Moi, Jurassic World Evolution, j'étais heureux de constater que ça allait être un jeu intéressant, qu'il y avait Frontier aux manettes et qu'on allait avoir un thème park de dinosaures, de vrais dinosaures, façon Jurassic Park. Le premier, parce que finalement, c'est quoi qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche l'émotion qu'on a eu quand on a vu le premier Jurassic Park,
oui.
Quand on a vu
on
apparaître sur écran géant ces dinosaures qu'on trouvait réalistes à l'époque
c'était
et qui le font. Enfin, voilà,
et il y avait un bon film en plus.
Enfin, et en plus, il y avait un bon film.
Non seulement une démo qu'on allait voir au ciné, et en même temps, il y avait un bon film.
Et là, on se dit, quoi ? Un theme park où on va pouvoir gérer ces dinosaures, les faire éclore, gérer la génétique, la sécurité, et puis le côté theme park avec faut monter des restaurants, attirer du monde, faire de l'argent et ce genre de choses. Il y a tellement d'ingrédients possibles que il faut que ce soit un bon jeu, il faut que ce soit un grand jeu et ben on tombe dedans quand même parce que c'est bien fait parce que c'est ils ont réussi ça et c'est assez extraordinaire quand même.
Et oui, ça pose la question Jurassic Park, on est tous fascinés évidemment par cet univers, par les différents films plus ou moins réussis, mais ça c'est un autre débat. Moi la question que je pourrais me poser c'est qu'est-ce qui serait un bon jeu autour de Jurassic Park, parce que il y a eu des FPS, il y a eu des jeux de plateforme, il y a eu plein de tentatives de reprendre l'essence Jurassic Park. Qu'est-ce qui s'y prête le mieux, parce que ça pose la question, c'est qui le héros de Jurassic Park ? C'est qui bah finalement, c'est pas les humains qui se baladent, ce sont les dinosaures et le parc en lui-même.
Ouais.
Et du coup, bah, le genre de gestion de parc, c'est peut-être finalement ça qu'on attend. Et c'est vrai que Manette... Alors, il y a eu une première expérimentation, je crois, il y a 10-15 ans, il y a eu un Jurassic Park... Alors, j'ai plus le titre. Je l'ai pas fait à l'époque, le jeu. Il y avait un jeu pareil aussi de création de parc, etc. Et là, en prenant en main ce évolution, on se dit, mais c'est ça, en fait. C'est ça qu'on attendait.
Ouais.
Moi, très franchement, pour être transparent, moi, le Tycoon, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon genre de jeu favori. J'ai vraiment du mal. En général, ça m'ennuie. Ça prend beaucoup de temps. C'est très, très chronophage comme genre. Et j'ai toujours eu du mal avec, je trouve qu'on n'est pas assez actif dans ces jeux-là. On a toujours un côté regard. Et finalement, là, je trouve que cette position de, comme ça, d'être au-dessus d'un parc et surtout de le créer, parce qu'on commence, en fait, sur il y a six îles. Et en fait, on commence sur une première, en tout cas, et en fait, c'est une sorte de tutoriel. C'est allez-y, montez votre parc. On est un petit peu guidé au début dans le jeu. Il faut tel élément. Et là, on se rend compte, en fait, qu'il y a pas mal de paramètres à mettre en place avant même de mettre des dinosaures en route. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un parc qui tient, il faut tout un système électrique, un système de qui va faire venir les visiteurs,
système de sécurité parce que c'est Jurassic Park, ça marche jamais.
Ça, tu l'apprends très vite qu'il faut être prêt en cas de problème, parce qu'il y a toujours des problèmes qui arrivent évidemment. Et puis moi déjà il est magnifique le jeu. Moi j'ai été bluffé quand je l'ai lancé.
Alors, sur PC et console.
Moi je l'ai lancé sur Xbox One, donc j'avais un petit peu peur du gameplay à la manette parce que mon PC était un peu tendu. Je me dis bon, je vais plutôt le faire sur console. J'avais peur du gameplay. Ça marche très bien. Alors c'est peut-être pas aussi spontané qu'à la souris, mais moi je me suis très bien débrouillé avec. Finalement on se fait assez vite à la manette sur un bel écran, et visuellement il est magnifique. Je trouve qu'il est vraiment
beau,
magnifique. On n'est pas
beau,
sur un jeu à licence avec juste un nom à coller sur la boîte et hop c'est fini. Non, il y a les visuels, on retrouve vraiment l'ambiance des films. La musique est exceptionnelle. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment pioché dans les soundtracks originaux des films. Moi j'ai joué avec la version française. On a beaucoup de doubleurs connus. Il y a vraiment une finition dans le doublage qui est très très bien faite. Alors je crois pas que ce soit forcément toujours les doubleurs des premiers films. Je crois qu'il y a des discussions là-dessus, mais en tout cas c'est du très haut niveau au niveau des doublages. Et puis voilà, une fois manette en main, et bien on se prend au jeu, quoi. On se prend au jeu, on se sent responsable de son parc.
Et je trouve que parce que le danger, et on l'avait vu on en avait parlé sur Machiavellian notamment, hein, la façon jeu de gestion. C'est vrai que l'intérêt de ces jeux de tycoon ou les city builder ou ce genre de choses, c'est la multiplicité des paramètres à gérer, gérer les problèmes, gérer l'expansion, gérer l'argent, gérer l'électricité, gérer ce genre de choses. Donc ça c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut quand on se lance dans ce jeu-là. Mais il faut qu'on nous apprenne, que il faut que les choses elles rentrent petit à petit et tout ça. Et là, je trouve que c'est très bien pensé. Quand même.
Bon, il y a quand même des petites zones où il faut te débrouiller quand même. Il y a des petites zones.
Oui, mais donc en fait il y a trois assistants entre guillemets, que l'assistant à la sécurité, à la recherche scientifique et au divertissement, qui vont nous donner des missions
différentes
de tutoriels pour apprendre à
faire venir plus de gens,
à faire éclore son premier dinosaure, à faire la première recherche génétique sur
les embryons. Parce que enfin il y a tout un système aussi. C'est ça que j'ai trouvé réussi.
À lancer ses premières explorations.
Exactement.
Pour
ça,
avoir les fossiles. Voilà.
C'est les
fossiles.
Les recherches de fossiles. C'est là où on voit que c'est pas juste un plaquage de licence sur un jeu existant. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment intégré, et c'est vraiment aussi au cœur du jeu, c'est l'ADN. C'est la recherche sur l'ADN. Lancer une patrouille qui va aller traverser la planète pour aller chercher un fossile qui a été repéré, pour ramener l'ADN qui va nous permettre justement de trafiquer, de jouer un peu les savants fous pour créer une nouvelle race de dinosaures, en tout cas modifier une existante. Et ça, ils l'ont vraiment intégré au jeu, et je trouve que ça marche bien. Enfin, on peut vraiment se focaliser là-dessus. Il faut pas oublier le reste. Hein.
Non, mais et c'est bien pensé. C'est bien pensé parce que c'est clair que quand tu commences ton petit parc de dinosaures, t'as du public et tout ça, avec tes petits herbivores, donc avec une bestiole, un lézard quelconque, et puis arrive le premier tricératops. On est encore sur les herbivores, mais on est content. Le tricératops, c'est hyper cool, et on resterait bien quand même avec un parc à herbivores, hein, parce qu'on se dit quand même, on est dans Jurassic Park. Et à la limite, si je fais pas les mêmes erreurs que les films, on fait un petit parc à herbivores.
On a vu les films, on sait.
Les herbivores, franchement, tu fais un parc à base de tricératops et de diplodocus et de brontosaures.
Ça attire pas autant le public, mais
là il y a les conseillers divertissement. Attention, etc. Ils sont pas contents, alors parce que pour attirer du monde, il faut des trucs qui fassent un petit peu d'adrénaline,
qui crient, qui sont méchants,
et donc forcément tu vas faire ton premier Ceratosaurus, hein. Voilà, le Ceratosaurus, bien connu, c'est une sorte de mini T-Rex, hein. Et là, il y a les limites du tutoriel, tu vois, parce qu'au début t'as ton parc, et en fait, alors grosso modo, ton parc c'est quoi? C'est des installations, et puis t'as ton usine à éclosion qui est reliée comme ça à un enclos, un gigantesque enclos.
Qu'en général on protège bien, hein, comme le but.
Mais ils te disent pas que ce serait bien de faire un enclos à herbivore et un enclos à carnivore.
Ouais.
Là, ils te disent pas. Moi je vous le dis, chers auditeurs. Avant de faire votre Ceratosaurus,
ces bêtes-là ne se mélangent pas.
Ah, mais t'as mélangé un. Oui, enfin, t'aurais pu y penser, Arwan.
Mais ils le disent pas. Ils le disent pas.
On attend dans la douleur.
Alors. Arrête, c'est hyper vexant.
Non,
laisse-moi justifier.
Ça arrive même au meilleur.
Non, mais parce que dans les enclos, tu peux mettre des spots, de mangeoires à herbivores et de mangeoires à carnivores.
D'accord.
Donc moi, j'installe le truc, tu vois. Je me dis évidemment, j'ai pas mettre mon Ceratosaurus avec mes super triceratops. Et donc j'installe des mangeoires à viande, tu vois. Genre, il a à bouffer, quoi.
Parce que tu es pris aussi par différentes rôles. Enfin, t'as différents rôles en même temps. C'est que tu n'es pas canalisé que là-dessus. En même temps, il faut gérer ton réseau électrique, il faut gérer l'accueil des premiers visiteurs, il faut gérer les escalades, enfin les escapades que tu envoies à l'autre bout du monde pour chercher. Tu gères en parallèle différents facteurs, mais ça, c'est le genre qui veut ça.
Ouais.
Du coup, t'es pas toujours très attentif entre espèces. T'as une alerte rouge un seul coup.
J'ai pas vu, pardon. Pardon pour les familles.
Ah, moi aussi, j'ai eu des moments de gêne terribles. Et tu te sens bête. Autant. Non mais autant dans ce jeu, moi, franchement, il est tellement beau. J'ai eu des moments. Non, j'ai vraiment eu des moments de, tu sais, de pesanteur
de
où...
malaise.
Non, j'ai eu des moments de pesanteur où, tu sais, je remettais une vue aérienne et je regardais. Ça, c'est moi, c'est mon parc. Ça, c'est moi.
Tu contentes.
Il y a un petit voyant rouge. Attention. Et là, tu redescends et t'as une catastrophe. T'as un truc comme tu dis horrible où tu dis ah non, c'est de ma faute. Et là, tu te sens très mal en général.
C'est
tu dis, ouais, t'en veux.
Ce putain de Ceratosaurus, il m'a bouffé deux triceratops. J'en avais trois. 250 000 dollars pièce, le Triceratops. Parce que c'est pas un dollar. En plus, évidemment, le truc, c'est que c'est bien pensé. C'est-à-dire que tu explores l'ADN, donc il faut ramener des fossiles, étudier les fossiles, etc. Et t'as ta maîtrise de l'ADN du machin qui augmente, mais elle augmente petit à petit.
Des fois, t'as des erreurs.
Et donc, le Triceratops qui coûte 250 000 dollars
quand
à produire, t'as 62% de chance qu'il vive.
Ah oui.
C'est ça que j'aime bien aussi dans la partie. Au début, tu dépenses sans compter parce que t'as les fond au début. Bah, là, je mets une centrale électrique. Là, puis peu à peu, à la fin, tu commences à calculer quand tu fais justement tes créations de l'espèce.
Et là, t'es Triceratops pour en avoir 3. Il a fallu que t'en fasses 5. Et là, ton Ceratosaurus de mai 2. Non, mais il est bien ce Ceratosaurus, il est sympa. Et t'en bouffes 2.
Dans ce moment-là, tu lances une Jeep et tu vas le corriger. Parce qu'il y a aussi ces moments qui sont géniaux.
À ce moment-là, tu fais un enclos carnivore. Tu fais un enclos carnivore.
La leçon qui t'aura coûté cher. La leçon à 2 Triceratops.
C'est ça. Il y a ces petits moments aussi marrants où tu peux prendre une Jeep en vue 3e personne aussi, où tu peux te balader dans ton parc.
Ceci dit, ce moment, parce que t'avais mis les mangeoires à viande, tu t'étais dit.
Il n'aura pas faim.
Le moment où il y a ce combat, parce qu'il y a l'affrontement, tu le vois l'affrontement Ceratosaurus-Triceratops.
T'as des alertes.
Non, mais là au début, t'as le Triceratops, il y a une griffure. Et en plus, tu penses que le Triceratops, il sait se défendre, tu vois. T'as vu Jurassic Park, les Triceratops, ils sont quand même. Ils ont pas peur. Et bah là, le Triceratops, la première mort de Triceratops, c'est un silence quand même.
Il y a une gêne.
Ah oui, non, il y a une gêne.
Non, mais en plus, il faut quand même. Ils sont super bien faits. Quand tu peux te rapprocher, tu peux vraiment te zoomer et te rapprocher très près d'eux. Ils sont magnifiques, même dans les comportements, dans la façon de se déplacer, les textures. Enfin, tout est vraiment bien fichu, quoi.
Et c'est ample, parce que comme tu l'as dit, les îles de Jurassic World, tu commences avec une petite, après ça s'agrandit, après t'as différents parcs à gérer.
Avec différents problèmes.
Il est incroyable. En fait, c'est le jeu Jurassic World, Jurassic Park. C'est le jeu de la licence. C'est le jeu, je pense, qu'on attendait sans même l'espérer parce que il est grand. C'est pas la petite production.
Il est passé sous les radars complètement. J'en ai pas entendu parler.
Exactement.
De ce jeu-là.
Ouais. Et c'est une vraie réussite.
Je sais pas si le film marche bien. Je sais pas si c'est lié aussi.
Je crois qu'il marche bien le 2. Ouais.
J'ai pas vérifié.
Mais c'est le jeu de la licence. C'est pas le jeu du dernier film. C'est le jeu.
Ah oui,
deux dinosaures, c'est le jeu de. Il y a tout.
Après,
ils ont essayé d'un peu rentrer au chausse-pied des éléments narratifs du dernier film qui sont complètement hors jeu.
J'ai pas vu du coup.
Ah non, mais moi j'ai Owen, là, l'espèce de bulot du dernier film.
The World, qui à un moment
intervient. Non, mais t'es là en train de gérer ton Triceratops, avoir quelques ADN et tout ça. Et là, il te parle de Blue. Blue, c'est le raptor modifié de la licence Jurassic World, alors que t'en es même pas à.
Ouais, tu galères, toi, avec ton.
Enfin, tu sais que.
Ton stand à frites que tu viens d'installer.
Tu sais que les raptors.
C'est ça. C'est vraiment ça le vécu au début. C'est une galère, quoi.
Tu sais que le raptor, tu vas l'avoir dans 14 heures de jeu, quoi.
C'est ça, parce qu'il y a vraiment une progression lente. Au début, ça prend vraiment du temps.
Et c'est ce que t'apprécies dans le. T'es là, tu sais.
Encore une fois, les mécaniques, c'est complexe. En même temps, moi, je trouve que c'est assez fluide, finalement, dans l'augmentation. La perfection des bâtiments, tout ça, c'est fait
très,
assez
très,
naturellement.
Très bien pensé. Et évidemment, et en plus, c'est sur le gâteau dont tu as parlé, il faut savoir que contrairement à la plupart des jeux tycoon, en fait, tu peux prendre le contrôle des gardes ils doivent aller injecter des seringues hypodermiques.
tu prends une jeep
pour aller prendre des photos de dinosaures, pour aller. Et donc, du coup, voilà, tu vois ton parc de l'intérieur. Enfin, bref,
le seul truc qui m'a un peu manqué, je sais pas si tu l'as ressenti, c'est le time lapse. C'est le fait de pouvoir accélérer parfois le temps.
Je l'ai pas trouvé,
c'est possible, mais tu lances sur quelque chose, puis il y a toujours des trucs qui se passent. Toujours un truc à bidouiller dans ton parc,
mais
quand tu lances une escapade qui prend 2-3 minutes, bon, des fois t'attends un petit peu. Ça, je trouve que c'est dommage de pas pouvoir un peu accélérer.
Non, surtout ça se fait bien de manière.
J'ai peut-être pas trouvé, mais je l'ai pas vu.
Dans Frostpunk, par exemple, t'avais le. C'est comme dans plein de jeux de gestion, mais tu accélères le temps et dès qu'il se passe un truc, paf, ça revient. Automatiquement.
J'ai peut-être loupé, mais.
Moi, j'ai pas vu, mais j'en ai pas eu besoin, en fait. Il y a tellement de.
Il se passe toujours un truc, c'est vrai que c'est tout le temps, t'as toujours un truc à bidouiller.
Jurassic World Evolution.
Un dino à sauver,
j'espère qu'on pète le score en termes de durée ou pas.
Non, ça va. Là. Ça va. On est dans la moyenne de ce qu'on fait en ce moment.
D'accord. Tout va bien. Voilà, c'est fini. Alors, il est à 30-40 euros, je crois, en téléchargement. Je sais plus.
Patrick, regardez sa montre. Il est 30-40 euros. Non, il est 30.
Une montre ultra connectée, comme tu peux le voir. Non, il est en démat pour l'instant. Je crois qu'il y a une sortie physique un peu plus tard, il me semble, je crois.
En tout cas, vraie réussite, le vrai jeu de dinosaures qu'on attendait. Ceux qui l'attendaient.
Mais presque donné envie, en tout cas.
C'est musique.
Quand j'aurai du temps.
Le temps dynamique, est-ce qu'il se met à pleuvoir, ça.
Ah oui, la météo. Évidemment, les dinosaures, ils arrêtent pas de casser tes trucs.
Ah ouais, moi j'en ai un.
Je te jure, tes enclos, c'est la merde à tenir.
C'est la misère, pire des chats.
Ah ouais, et puis alors, il y a les tornades qui arrivent, t'es pas content.
Après, tu comprends ce qui s'est passé dans le film.
Ah mais ouais.
Après, tu dis, les mecs, ouais, tu comprends quoi.
Ah ouais, parce que.
Tu leur jettes plus la pierre, quoi.
Quand t'as du carnivore dans la rue, t'es pas serein.
Peut-être que l'idée de base était pas bonne, hein, de d'ouvrir.
J'aime bien ces petites remarques de Goldblum aussi.
C'est sous-entendu, hein, c'est sous-entendu au début que ton idée de base elle est pas bonne.
Ouais.
Mais bon, t'es là pour ça aussi, hein.
Oui, voilà.
Tu vas pas abandonner. Ah bon, vous d'accord, vous avez raison. Bon, je me casse. Non, non, mais non, je suis désolé.
La vie trouve toujours son chemin.
La vie trouve toujours. Merci, Patrick.
C'est un peu voilà, c'est le motif.
Allez, c'est fini cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Alors, je ne suis pas allé au cinéma. Bon, allez, on est entre nous, hein, je vais vous le dire à vous. Alors, hier, moi, j'avais un écran pour travailler, puis un écran sur le net où j'ai pas mal abîmé ma touche F5 parce qu'il y avait la bande-annonce, la première de Creed 2 qui vient de tomber. J'attendais impatiemment et bah, ça envoie.
J'ai cru que tu allais me dire que tu regardais la Coupe du Monde de football.
Ah, non,
c'est pour en parler, moi, j'aime bien regarder la Coupe du Monde.
Ah, mais moi aussi, non, mais
je vous parle de Creed 2, le retour de Ivan Drago, etc. Ouais. C'est la suite spirituelle de Rocky 4. On a eu la première bande-annonce.
Oui,
c'est le film que j'attends le plus. Et je crois que c'est la première fois que je faisais F5 en attendant une bande-annonce, que j'en pouvais plus de voir les images. Ça fait très envie. Ce qu'on a vu là, il y a une petite minute à peine, ça fait très envie. Bon, voilà, on ne voit pas Dolph Lundgren. On voit son fils qui a l'air d'être un gros bourrin. Et moi, ce que j'en vois, c'est qu'une bande-annonce, c'est toujours difficile, on en a peu d'éléments. Déjà, c'est une bande-annonce qui est plutôt réussie parce qu'elle donne des petits éléments, mais elle n'en dit pas trop. Il y a beaucoup de chose qui reste mystérieuse. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on va vers une sorte de relecture de Rocky 3. Et Rocky 3, je sais pas si vous vous rappelez, bah, c'était qu'est-ce que devient un champion lorsqu'il commence à être pris par le doute, où il se remet en question.
Rocky 3, c'était Mr. T, quoi.
Et c'était ça. C'était un champion qui vacille et qui est challengé par un vrai méchant. Et là, j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose dans cet esprit-là. Et moi, ce qui m'inquiète, bah, c'est que le destin de l'entraîneur était un peu funeste, hein, dans Rocky 3. Donc j'espère qu'il n'y aura pas la même chose, la même décalque dans celui-ci. En tout cas, la bande-annonce fait très envie début 2019 en France, fin, je crois en novembre ou octobre aux US. J'attends impatiemment.
Corentin. Alors, je sais que tu n'as pas de vie, hein, mais
j'ai gratté ma tête, j'ai cherché un petit peu pour trouver quelque chose, mais si en fait j'ai regardé des choses sur Netflix, désolé. Explained, est-ce que vous connaissez?
Ah oui, j'ai vu passer, mais ça m'intéresse d'avoir un
alors donc c'est Vox, alors j'ai pas tout vu encore, hein, mais c'est Vox. Donc Vox, c'est un gros média américain qui se spécialise notamment sur la vidéo pour expliquer des sujets de société. Ils possèdent notamment Polygon, si vous connaissez seulement un jeu vidéo, voilà. Vox, c'est spécifiquement, on va parler de gros sujets généralistes avec des vidéos assez courtes, hein. C'est des vidéos entre 3 et 10 minutes sur YouTube, gratuites. Vous pouvez regarder ça et c'est très bien fait. Je tiens même à dire que c'est tellement bien fait que là, ils sont en train de copier, s'en inspirer très fortement au monde. Quand on regarde des vidéos du monde, j'ai l'impression de voir des vidéos Vox en français, moi, en ce qui me concerne. Donc voilà, c'est vraiment une formule qui fonctionne. Ils ont raison de le faire, c'est pas une critique, hein. Mais ils ont raison de le faire parce que Vox, c'est vraiment une voix posée sur des sujets pour t'expliquer des trucs compliqués, vraiment avec des graphiques, des petits schémas bien dessinés. Il y a un peu d'humour parfois quand ça s'y prête, c'est vraiment pas mal. Donc là, c'est un format un peu plus long, c'est en collaboration avec Netflix, c'est un Netflix Originals. Ça s'appelle En Bref dans sa version française, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Et donc ça dure cette fois-ci entre 15 et 20 minutes. Donc c'est à peu près le double, hein, du format habituel. Et là, donc il y a un épisode qui arrive toutes les semaines et ça traite de sujets aussi divers que qu'est-ce que la K-pop, ou alors pourquoi les régimes alimentaires ne marchent pas, genre pour maigrir, les régimes amincissants, ou alors pourquoi il y a toujours autant d'inégalités raciales économiques aux États-Unis, ou alors qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, voilà. Donc c'est des sujets vraiment variés, hein. Et ça peut être léger, moins léger, c'est toujours la même formule, peut-être avec plus de moyens encore, avec des interviews un peu plus en profondeur, toujours ces graphiques bien faits qui te font comprendre immédiatement de quoi on parle. Ça prend des exemples, il y a même, je trouve qu'ils ont même presque mis un petit peu de vidéos TED par moment. Vous savez, ces vidéos TED, c'est donc il y a les conférences TED et puis ils ont leur série de vidéos TED qui vous expliquent des sujets scientifiques ou sociaux et de ça. Et ils prennent souvent des vieilles légendes pour faire des parallèles avec de l'actualité d'aujourd'hui. Et là, par exemple, dans celle sur les crypto-monnaies, ils ont repris une vieille, alors j'ai oublié la légende, les généraux byzantins, je crois, qui devaient tous être d'accord sur une décision pour attaquer ou non. Et ils expliquaient que c'était un peu comme la crypto-monnaie, il fallait que tout le monde soit d'accord pour dire cette transaction a bien eu lieu. Et ils expliquaient la difficulté parce qu'il suffit qu'il y ait un généraux qui décide de ne pas attaquer alors que les autres attaquent et que ça soit le bordel et que la confiance soit rompue. Et dans la crypto-monnaie, c'est pareil. Si tout le monde n'est pas d'accord sur les transactions, il n'y a plus de confiance, donc il n'y a plus de monnaie, parce que la monnaie, au fond, c'est quoi? C'est de la confiance. Bref, donc c'est vraiment super intéressant. Vous apprenez plein de trucs. Alors évidemment, c'est un média américain, donc ça va être sur des problématiques parfois un peu trop américaines à notre goût, nous européens. Les inégalités raciales aux économiques aux US, c'est un cadre très particulier parce qu'il y a eu des lois, notamment sur comment les noirs américains pouvaient devenir propriétaires avec des quartiers est réservé aux noirs, ce qui fait qu'en fait ça crée une égalité à la base qui ensuite n'a fait que s'accentuer parce que en fait l'argent amenant l'argent, ceux qui avaient de l'argent ont plus d'argent et les noirs malheureusement sont partis avec une inégalité de base. Donc aujourd'hui les inégalités sont encore plus grandes qu'à l'époque, ce qui est étonnant puisque techniquement d'un point de vue légal il n'y a plus de racisme dans la loi.
Oh bah alors attendez, il faut que je revoie mes recos, je vous parle de la bande annonce de Creed 2.
Mais bref, non mais là je résume les trucs. Voilà, c'est pour vous dire, c'est super intéressant, ça vous explique des sujets compliqués de manière simple. Donc je vous recommande, ça s'appelle Explained, c'est sur Netflix. Et n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil sur la chaîne YouTube pour les vidéos plus traditionnelles de Vox qui sont tout aussi intéressantes, bien que plus condensées. Voilà.
Yes. Alors moi j'avais des choses, je lis des bouquins que je ne comprends pas, c'est hyper cool, mais je vous en parlerai.
Ah oui, c'est le fameux extrait que t'as partagé sur Twitter là.
J'adore. Je vous parlerai des trous noirs et du rayonnement de Hawking une fois. Bref, mais pas du tout. Là, en fait, je voulais vous prendre ce petit temps rapide pour vous tenir au courant un peu de l'actualité de Silence on Joue, parce que alors, comme vous le savez, donc on a eu plein d'aventures avec Silence on Joue. Rappelez-vous, on a commencé dans les locaux de Libération, ensuite on a emprunté les studios de l'Express qui étaient dans le même bâtiment que nous, de la web télé de l'Express.
C'est le podcast du coach surfing un petit peu.
Non, c'est ça. Et, ensuite, donc avec No Life, qui sont venus enregistrer la version vidéo de Silence on Joue. Ouais. Encore une fois dans les locaux de l'Express, mais on a déménagé, donc on a enregistré. On est reparti chez No Life. Je vous fais l'historique parce qu'il est quand même amusant ces dernières années. Hein. On a enregistré une version vidéo chez No Life. No Life a fermé ses portes et là donc on est chez nos amis, nos sauveurs, les sauveurs des croix. Pour continuer à enregistrer en revenant au format audio. Et donc, pour la rentrée 2018, Silence on Joue va rejoindre le catalogue et la production de Binge. Donc, Binge Audio, qui est ce service de podcast, dont le directeur de la rédaction est David Carzon, qui est un ancien de Libé. Donc, bref, j'ai pu discuter avec lui. On s'est mis d'accord. Enfin, voilà, ça se passe bien. Alors, Binge avait lancé une émission consacrée aux jeux vidéo avec Jean Z qui s'appelait No Game, mais ça a duré quelques numéros et donc ça n'est plus actif. Donc voilà, ils avaient un peu une place de libre pour le sujet jeux vidéo. Donc ça reste ça, un peu à la façon de No Life, ce sera une coproduction Libération Binge. Et donc moi, je suis ravi, d'une part parce que parce que on rejoint des gens qui connaissent le podcast. C'est vrai que depuis la fin de Libé Labo à Libération, on était un peu tout seul. Non mais au sein de Libération, il y avait plus personne qui s'occupait un peu de cet audio-là. Nous, on a continué parce qu'on voulait le faire et tout ça. Mais on n'était plus dans un écosystème, on va dire, un peu favorable pour réfléchir aux évolutions, pour réfléchir à ce qu'on faisait. Libération a toujours soutenu Silence on Joue, mais il y avait plus de structure pour ça. Et c'est vrai que rejoindre des gens dont c'est le métier de faire des podcasts, qui ont une réflexion autour des podcasts, qui ont une envie de développer aussi ce genre de choses, moi je suis assez content, parce qu'on est quand même aujourd'hui un des plus vieux podcasts français. Il y a pas photo hein, pour le coup avec nos 11 ans d'existence. ça me fait aussi plaisir de rejoindre une équipe qui là est pour le coup a une volonté d'aller chercher des choses nouvelles et tout ça, donc c'est cool.
Les questions, ça va être, est-ce qu'il va y avoir un changement de format, est-ce qu'il va y avoir des changements en émission,
a priori, c'est pas inenvisageable. Après, ils nous prennent comme nous sommes, on vient avec notre format, avec notre façon de faire. Moi, je suis aussi j'ai envie de discuter avec les gens de Binge pour réfléchir avec eux, qu'est-ce que eux verraient comme amélioration, comme changement, comme tout ça. Mais le ton, le format général de Silence on Joue ne changera pas, mais voilà, donc je suis assez ravi de ça, et puis c'est aussi la certitude de retrouver Silence on Joue à la rentrée 2018,
c'est le plus
important quand même. Voilà, merci à tous les deux,
merci
encore au Croissant de nous accueillir encore une fois, et on se retrouve la semaine prochaine sur les internets et sur libération.fr. Ciao.